Dans le tempo, c'est l'épisode 66 et on y va. Ça va, Daz ?
Écoute, Salman, j'ai connu des week-ends plus paisibles.
Tu as eu des problèmes techniques, c'est ça ?
Ouais, j'ai eu quelques problèmes informatiques de type relou.
Rien d'insurmontable.
Rien d'insurmontable.
Quand t'as un problème informatique, ta vie en pâtit vraiment. C'est dur.
Bah moi, c'est littéralement mon outil de travail. Donc,
ouais, dur.
Avant, tu vois, quand c'était genre juste une passion, je me disais, bon, un ordinateur qui pète, c'est pas trop grave. Là, ça me bloque, je peux plus rien faire. Donc,
ouais. On peut coder avec un papier, un crayon, tu sais.
À hauteur de 3 gigas par semaine. J'ai vu passer cette propale. Je me suis retenu, tu vois, je me suis dit, c'est un peu facile.
Ouais.
En fait, j'ai choisi parce que dans l'actualité française, du coup, il y avait 3 maghrébins sur lesquels il fallait, tu vois, dans, qui faisaient l'actu.
Lequel taper ?
Il y avait Najat, il y avait le petit jeune qui s'est fait buter par les keufs, là, encore une fois,
drôle.
Tu vois. Ouais. Et puis, il y avait Amine qui fait un truc de foot avec Neymar et Piqué.
Mais il ne fait pas de musique à ma connaissance. Mais pourtant, nous sommes dans le podcast des passionnés de musique, Daz.
Mais peut-être qu'il fera de la musique, même, je pense. Parce que
c'est pas impossible. Hein.
Tous les youtubeurs.
T'as vu que Théodore, là, se lance dans la musique.
Ils font de la musique.
Absolument.
Ouais.
C'est comme si c'était un truc facile, tu sais, la musique après.
Ouais, c'est bah, comme les gens qui se décident à faire de la BD, tu vois, comme si c'était un art mineur un peu facile à. Tu vois.
Nous, on prône globalement dans cette émission l'ouverture musicale, l'idée.
Ah oui, mais après, tu te retrouves avec des René Latope et on sait très bien ce que t'en penses de René Latope, tu vois.
Cette référence est essentielle dans ce podcast. Il faut au moins qu'une fois par émission, on parle de René Latope.
Évidemment.
Daz, on
qui recevons-nous aujourd'hui?
On reçoit Mathieu Lescope qui est avec nous. Salut Mathieu, ça va?
Salut, ça va, ouais.
Ça fait plaisir de t'avoir, merci
beaucoup. Content de t'avoir avec nous.
Ouais, très content aussi.
On te connaît effectivement surtout sous le nom Lescope, qui est le, tu as multiples projets, un groupe aussi en parallèle, Serpent, on y reviendra. Mais ton prénom, c'est Mathieu Desrodes. Parfois, on dit Mathieu Lescope.
Oui, ouais, ouais.
Ouais, tu jongles comme ça entre les noms.
Ouais, c'était déjà mon. En fait, Mathieu Lescope, c'était comme ça. C'était mon nom dans Asile, mon précédent groupe, et celui avec qui j'ai commencé à chanter. Et puis, mais en fait, mes potes m'appelaient Lescope. Ouais. C'était un peu devenu une blague, qui est le nom de mon arrière-grand-mère.
Ok.
Un nom breton.
Oui, parce que j'en connais des Lescope, justement. Ouais. Donc, ok. Ok. Alors, je me dis pourquoi ce pseudo et, bah, ok, très bien.
C'est un hommage.
Un hommage.
Les Bretons sont partout.
On le sait. On le sait.
Tu es artiste, chanteur, auteur, compositeur. Moi, je t'ai connu comme beaucoup de gens, je pense, avec ton premier album en 2012, qui s'appelait d'ailleurs Lescope. Et puis j'ai découvert plus tard qu'avant en fait tu avais une carrière assez riche déjà avec un groupe qui s'appelle Asile.
Ouais.
Vous êtes formé en 95 donc
ah ouais. Enfin le groupe moi je l'ai rejoint en 97.
Ouais. Donc ouais plus de 10 ans avant d'exploser entre guillemets sur la scène nationale,
à
vraiment tourner beaucoup de festivals, de premières parties, etc. avec Asile.
Ouais, et puis de petits clubs, de bars, de squats, c'était une vie plus dure, plus à la dure, quoi.
Ouais. Vous utilisiez une esthétique post-punk qu'on retrouve encore aujourd'hui en partie dans ta musique. Ouais.
Est-ce qu'on peut définir ce que c'est que le post-punk?
Bah, tu sais quoi, on va dédier même carrément une partie à ça, Daz.
D'accord.
Ça sera comme ça ultra intéressant. Et globalement, vous vous connectez à ce moment-là aussi à différentes personnes. Vous êtes même amené à faire la première partie d'Indochine.
Oui.
Toi, tu vas écrire pour Indochine d'ailleurs, pour 2 albums différents, un morceau à chaque fois. Et puis arrive 2011, tu te lances en solo, avec un premier EP d'abord, et puis dans la foulée, donc cet album dont je parlais. Avec un single en particulier, un titre qui va te révéler un peu à la face des Français, qui est La Forêt. À la fois, j'imagine, une bénédiction parce qu'il t'a tellement apporté ce morceau, et en même temps, peut-être un truc à apporter aussi derrière en disant « bon, on m'attend ». Il y a eu un peu cet effet-là ou pas trop?
Oui, après, ouais, il y a eu cet effet-là. Mais moi, ça reste un morceau avec lequel je suis très bien. Parce que c'est un morceau qui... C'est vraiment un étendard, c'est vraiment un morceau qui a changé ma vie à proprement parler. Donc moi je suis très content de tout ce qui s'est passé avec ce morceau, et c'est encore vraiment un trait d'union entre moi et les gens qui viennent me voir en concert. Je le constate là, parce que là j'ai commencé la tournée du troisième album, et je constate quand même, c'est moi ce que j'en parlais dans le camion là, dans le van en revenant, c'est quand même fou que 12 ans après ce morceau il y ait autant quelque chose qui se passe à chaque fois que je le joue. C'est très étrange, quoi. Il est, je sais pas, il est un pouvoir magique, ce morceau.
On en parle parfois parce que c'est le truc classique. On sait qu'il y a certains artistes qui ont du mal avec leur grand tube, qui même pendant des années décident de plus le faire en tournée, des choses comme ça. Et en fait,
là, moi j'avoue, c'est différent, en fait, parce que tu as eu ton grand tube après plus de 12 ans de pratique déjà.
C'est vrai que ça change les choses.
Donc
déjà,
en fait,
ça,
c'est pas comme si c'était un truc de tout début de carrière.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est des problèmes de riches. J'aime pas mon tube.
Et surtout, mais quel bonheur, je parlais de bénédiction, que d'arriver à toucher les gens de cette manière avec ce morceau.
Ouais. Non, parce que pour avoir vécu ce que c'est de tourner longtemps sans tube, je vais t'assurer que c'est cool quand on a.
J'imagine. Donc je parlais de 2012 avec cet album. En 2016, si je dis pas de bêtises, tu en sors un deuxième. Et puis. Là arrive, c'est sorti en février, troisième album, Rêve Parti. Entre temps, tu t'es consacré à un autre projet de groupe à nouveau qui s'appelle Serpent. Vous avez sorti deux EP en 2020-2022. J'aime beaucoup ce groupe, Serpent, c'est très très cool.
Merci.
On s'en écoutera des extraits tout à l'heure. Donc franchement, j'ai même été étonné, avant de te recevoir, surtout cette expérience avant ton premier album sous le nom de Lescope. Et je me suis dit, mais en fait, t'as une carrière super riche. Et d'avoir connu les deux facettes d'une certaine manière de la musique, d'encore aujourd'hui, alors que t'avais ton projet solo, tu vois, qui marchait plutôt bien, de se dire, je vais faire un autre groupe en parallèle, Serpent, avec une musique vraiment différente aussi. Je pense qu'il y a pas mal de choses dont on peut discuter ensemble.
Je pense, ouais.
Trop cool. Bon, première
je suis content,
partie.
Je suis content que vous pensiez ça, parce que je me disais, imagine, il pense que non.
Non, alors coup, moi, pas du tout.
C'est vrai. Allez, je pense que je n'ai rien à dire. Non, mais tu sais, dans cette émission, en général, on cible bien nos invités.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas qui s'occupe de l'édito, mais écoute, je le féliciterai ou je la féliciterai.
On lui dira.
Ouais.
Bon, moi, j'ai envie qu'on fasse cette première partie sur les esthétiques musicales qui te parlent, à la fois dans tes influences, dans ce que tu fais, dans ce que tu peux écouter même, pourquoi pas, et en particulier de cette histoire de post-punk, parce que je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Déjà, tous les post quelque chose, c'est pas toujours évident. Puis en plus, le post-punk, après, est une racine presque qui a donné naissance à plein de sous-genres.
Oui.
C'est tes premiers émois musicaux, le punk même de manière générale.
Oui, le punk. Moi, je viens de là. Enfin, je viens du rock et particulièrement du punk parce que c'est quelque chose que j'ai embrassé à 17 ans. Je suis tombé amoureux de ce son-là, de cette énergie-là et de cette façon que ça avait pour... Moi, je m'y suis retrouvé. Quand j'ai découvert les Sex Pistols, c'était le truc qui me manquait depuis que j'étais tout petit. Et ce côté, à la fois, il y a une énergie, un truc qui est effrayant. Et en même temps, c'est un truc de cartoon. Tu vois, les Sex Pistols, pour moi, c'est un groupe de cartoon.
Ouais.
Mais je veux pas dire que c'est en carton-pâte, mais je veux pas dire par là que c'est faux.
On exagère tout.
Oui, c'est ça, c'est exagéré, puis c'est des personnages de dessins animés. Johnny Rotten, Sid Vicious, c'est des sales gosses dans les dessins animés, tu vois. Et il y a aussi beaucoup d'humour dans cette musique, un humour un peu énervé, mais il y a une insolence et un côté espiègle qui me touche dans le punk et qui, même à 45 ans, continue de me toucher. Et donc, moi, je me suis lancé vraiment... Quand j'ai découvert ce truc-là, mes parents étaient fans de rock, mais plus de rock. J'adorais, moi déjà, les Doors, et j'adore toujours. Et c'est un autre de mes groupes préférés. Et quand j'ai... Voilà, ce qu'il y avait ce truc entre... Tu vois, les Doors, il y avait ce truc entre le texte et la musique. Parce que moi, je voulais toujours écrire, j'ai toujours été attiré par l'écriture, la poésie et tout ça. Et puis, en même temps, je trouvais que poète, c'était un métier un peu chiant, quoi. Tu vois, je me disais, attends, est-ce qu'on peut trouver un truc un peu moins relou que poète, comme... Est-ce qu'on peut écrire de la poésie sans être un poète? Et j'ai trouvé chanteur de rock, je trouvais que c'était vraiment pas mal, et ça avait beaucoup plus de gueule.
En vrai, c'est plus cool.
et je trouvais que voilà, avec le punk, il y avait ce truc là où les paroles ont beaucoup d'importance dans le punk. De là, oui, après, naît tout ce du punk, naît enfin, quand même, pour la petite histoire, parce que je voulais quand même le raconter.
Ouais, vas-y.
Je suis devenu chanteur du groupe dont j'étais fan. Asile, c'était un groupe de ma ville. J'habitais à La Rochelle. Et c'était un des groupes il y avait une scène un peu des groupes de lycée, quoi. Et puis, j'avais un copain qui jouait dedans et il me dit, tu devrais venir, je suis dans un nouveau groupe et c'est vachement bien. Et j'étais allé voir le truc, j'étais, waouh, putain, c'est trop bien. Et je trouvais que eux, ils avaient une... c'était vraiment différent, quoi. Je me disais, ça, c'est un groupe, j'aimerais tellement être dans un truc. J'étais un peu jaloux de mon pote, tu vois, Antoine, mon bassiste. Et je dis mon bassiste parce qu'après, il a tourné avec moi sur les scopes, mais il m'appartient pas, en vrai. Mais alors, c'était vraiment... Et je suis plutôt devenu son chanteur d'ailleurs. Mmh. Et il me dit, et puis à un moment il me dit, ouais, en fait, le chanteur, c'était guitariste chanteur, il me dit, il en a marre de chanter, et on cherche un chanteur, quoi. Et ils m'ont dit, bah, si tu veux venir, et moi je dis, moi je veux le faire. Et puis ils m'ont dit, bah, tu viens, t'improvises un morceau à la fin du concert, et puis si t'es bon.
Ah, putain, la pression. Ah ouais.
Et je
te rappelles de ce moment?
Ouais, je me rappelle très bien. Et j'avais mis une cagoule, tu vois. Parce que je m'étais dit, il fallait que ça fasse un peu dangereux et tout. Tu vois, j'étais dans un trip un peu Berrurier Noir, tu vois, à l'époque et tout. Et j'avais mis une cagoule et j'étais arrivé. J'avais foutu un bordel pas possible sur scène et tout. Et puis, ils étaient, ah ouais, cool. Et donc, ok, you're in. Et c'est comme ça que je suis devenu chanteur.
Tu te rappelles de morceaux qui, quand tu découvres le punk, te mettent une claque?
Ah bah, il y a Anarchy in the UK des Sex Pistols qui, pour moi, c'est le... avec qui commence par un rire sardonique de Johnny Rotten, et d'entrée de jeu, moi, ça m'a mis un frisson dans la colonne vertébrale et dont je me suis jamais remis, quoi. Ça, c'est sûr. Hein.
T'écoutes un extrait?
Ouais.
Allez, c'est parti. Et toi, Daz, un peu la musique rock et le punk?
Mais tu rigoles ou quoi?
Pas du tout.
Pas du tout. Enfin, si, on voyait, tu sais, c'est quand t'es au collège, au lycée, t'as les clans.
Ouais. C'est une autre bande.
C'était, voilà, t'avais les clans rap, les clans hard rock, metal, punk, les skaters qui naviguent entre les deux, tu vois. Et donc, oui, j'avais beaucoup de potes qui étaient dans ce délire-là. Mais ouais, non, moi, j'écoutais pas. J'étais un peu con, hein. Ouais. Bon, en même temps, t'es adolescent, donc... tu sais, c'est l'époque où tu dois absolument te définir par un truc qui fait ta personnalité. Tu pouvais pas être trop éparpillé, sinon on n'arrivait pas à te cibler, tu vois. Mais
c'est marrant parce qu'en plus, en fait, il y a des ponts. Parce que toi, t'étais plus dans le hip-hop, tu vois, ouais. À fond. Et en fait, il y en a plein de ponts. Et je pense, l'un est évident. Alors, toi, c'est un groupe que t'aimes pas, mais c'est les Beastie Boys qui, à la base, justement, viennent du punk.
Ben ouais,
et ensuite, ben oui, sont devenus un groupe clairement hip-hop.
Non, mais punk et rap, c'est la même. Enfin, notamment en France, d'ailleurs.
Oui,
c'est la même, c'est la même culture, un peu.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle très bien que quand j'étais punk, la musique mainstream, ce qui passait en radio, le seul truc qui nous plaisait, qui pouvait passer en radio français, c'était les trucs de rap, en fait. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas... Enfin, les groupes de rock qui passaient à la radio, c'était pas bien. Enfin, nous, ça nous parlait pas. Et le seul truc un peu subversif qui pouvait passer à la radio, c'était... Moi, je suis allé voir NTM en concert, j'étais fan d'Assassin, j'étais fan de IAM, enfin, tu vois, il y avait tout un... La compilera Patitude, moi, c'est un truc...
Ah oui,
tu vois,
Tonton David.
Les cultes et tout, bah ouais, ouais. Et il y avait toute une scène quand même qui était cool en rap français à l'époque.
Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais en plus, clairement, la scène punk a aidé la scène rap à émerger chez nous, quoi. Donc,
bah, ce qui est certain, mais ça a été une forme de reproche à un moment, mais on sait que le circuit, comme il y avait l'industrie française, les circuits, c'était pas encore les SMAC, mais des petits studios, etc. Les ingé-sons et tout avaient une formation rock historiquement, plutôt dans les musiques populaires, entre guillemets. Mm. Et c'est vrai que les mecs du rap sont vite à retrouver, à enregistrer avec des mecs qui venaient plutôt d'une culture rock, d'ailleurs.
Mmh. Ouais. Ouais, non, c'est les ponts, en fait, ils sont complètement validés et acceptés par tout le monde. Je sais pas si ça s'est passé comme ça aux États-Unis, je pense pas, mais en tout cas en France, clairement, c'était deux sous-cultures.
Je sais pas à quel moment, je pense que dès les débuts, il y avait des liens qui ont pas toujours été ultra présents, mais qu'il y a un truc, on en parle parfois, on pourra en parler parce qu'on le recevra avec Samir Hamad. La culture skate a vraiment été un pont oui. pour ces genres musicaux.
Oui, sûr. Parce que dans la culture skate, il y a les deux. Moi, j'ai jamais fait de skate, mais il y a
plein de gens qui faisaient du skate, mais ils en faisaient pas. Hein. Ils avaient
une planche. Ouais, c'est ça. Mais genre, en fait, j'aurais trop aimé. Bah, j'ai essayé et j'étais, ah, putain, mais je suis nul. Et je me disais, j'ai vraiment pas envie de faire un truc où je suis nul comme ça. Quoi. Parce que genre, je trouvais ça cool l'idée d'être skater,
ouais.
Tu vois.
Ah, ouais, de fou.
Et tout, la musique et tout. Enfin, puis il y avait un côté convivial et un peu festif dans la culture skate qui me plaisait bien, mais j'étais tellement mauvais, quoi.
Ouais, on a tous essayé, et puis généralement, après les premiers points de suture, tu fais ouais, non, mais ça va, je vais m'asseoir.
Ce que je propose, c'est puisqu'on parlait de punk, on en a parlé d'Asile, donc ton premier groupe que tu rejoins. Il y a un morceau, je crois que c'est sur votre premier EP. Alors, ce qui est étonnant, c'est 1975. Ce qui est étonnant, c'est que cette EP, je l'ai vu sous le nom Hiroshima Miyamor et en même temps sous le nom Asile aussi. Tu vois pourquoi ou pas?
Non. Je sais plus.
Ouais.
Je sais plus. Je t'avoue que je réécoute jamais. C'est vrai. Ça me crispe.
Crispe, merde. Ça t'embête qu'on l'écoute ou
Non, mais tu peux le mettre si tu veux.
Bah, en tout cas, on voit tout de suite l'influence punk. D'ailleurs, à l'époque, tu chantais parfois en anglais aussi.
Oui.
Ce qui peut être le cas dans Serpent aussi. On y reviendra, ouais. Pas dans le projet Lescope. Mais ouais, t'oscillais entre anglais, français. C'était plus naturel quand on fait du punk.
Oui, bah c'est sûr que nous, toute la musique que j'écoutais, elle était anglo-saxonne, quoi. Et à part, je parlais de Beru Rien Noir tout à l'heure, tu vois, il y avait les Beru, il y avait Ludwig, qui était plus un groupe blague, mais c'était un groupe quand même, quoi. Et il y avait, à part le rock alternatif, il n'y avait pas beaucoup de refs en punk. En français, quoi. Et enfin, si, mais des trucs que j'ai découvert un peu après. Et moi, je voulais chanter en français, je trouvais ça cool, mais en même temps, j'avais du mal à écrire tout un album en français à l'époque. Et en plus, à l'époque, ça se faisait vraiment pas dans le circuit rock de chanter en français. Donc, déjà, rien que pour ça, on était un peu marginaux dans notre propre milieu, quoi.
Allez, un exemple.
C'est un milieu de marginal, c'est ça qui
est. T'aurais dû être fier. Bon, 1975 pour se donner une petite idée de l'asile. 1, 9, 7, 5. Il est bien ce morceau.
Ouais, c'est vrai. je l'avais pas écouté depuis je sais pas combien de temps, ouais. Des années, je pense.
Parce que tu disais que t'adorais encore La Forêt, qui a pourtant maintenant 11 ans.
Ouais.
Et par contre, que Asile, ça te crispe un peu plus. C'est parce que c'est vraiment une autre part de ta vie, ou c'est...
Oui, et puis c'était un moment de ma vie aussi. Je pense que j'étais pas la même personne que je suis maintenant. Enfin, je suis la même personne, mais qui a évolué, enfin, qui a changé. Enfin, je pense. Comment formuler ça? J'étais ce qu'on appelle un speed freak à l'époque. Enfin, ça allait aussi avec un mode de vie et une urgence à l'époque. Et bon, il y avait tous les excès qui allaient avec, quoi, et qui sont pas que des bons souvenirs pour moi. Et donc il y a ça aussi. Puis on était, voilà, le premier album s'appelle Petit cauchemar entre amis. Je pense que ça résume assez bien l'ambiance générale. C'était un truc, voilà, on était très
dans l'urgence,
oui, très très bagarre, quoi, comme ouais. C'était toujours sur la corde raide.
Mais est-ce que ça aurait été possible de proclamer faire du punk sans être comme ça. Ça existe, des gens qui font du punk, mais dans une ambiance un peu feutrée.
Non, pas feutrée, mais je pense que moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait su être un crew et qu'entre nous, ce soit plus cool. Et en fait, on était tous hyper énervés et on tenait pas en place, quoi. Et évidemment, il y avait ça, un mode de vie qui allait avec, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui n'aidait pas à trouver une stabilité.
Est-ce que, genre, pour toi, avec le recul, c'était quoi ? C'était de la posture, vraiment ? Genre, les gens qui se forcent un peu à être comme ça pour...
Oui,
je pense. Ou est-ce que c'était vraiment la personnalité des gens, et en fait, tu étais avec des gens qui étaient peut-être un peu désaxés
Non, on était tous un peu dysfonctionnels, quoi. Ouais. Et en plus, on était dans une posture. C'est-à-dire que, et en plus, ouais. on se...
Oui, on en rajoutait. C'était de l'émulation entre vous.
On voulait vivre à 100 à l'heure, on voulait déplaire plus que plaire. En fait on se rendait même pas compte qu'on était déjà là-dedans, on était déjà dans un truc qu'on se marginalisait déjà de fait, et en fait en plus on voulait en rajouter. notre musique était déjà agressive et nous on voulait par-dessus être agressif, enfin c'était aujourd'hui je vois plus du tout les choses comme ça. Enfin moi j'ai une sainte horreur de l'agressivité, de la violence, et j'aime la musique violente, j'aime l'art violent, mais je déteste
le mode de vivre avec,
l'attitude autour, le rapport aux autres, le rapport, on était tout le temps, on avait toujours l'impression qu'on avait plein d'ennemis, qu'on était en guerre, quoi. Après, c'est les erreurs de jeunesse.
C'est peut-être formateur, t'as certainement appris des choses. Ouais.
Non, mais par contre, ce dont je suis fier avec cette histoire-là d'Asile, c'est que en tant que musicien, je me considère comme un prolétaire, quoi. C'est-à-dire qu'on vient vraiment, on vient de ce qu'on appelait rock alternatif, quoi. Les milieux alternatifs, on avait commencé dans un bar alternatif qui s'appelait La Casamance à La Rochelle, qui était un endroit punk. Au départ c'était un club gay et qui a basculé dans l'histoire un peu rock'n'roll et punk rock et tout ça, et on était très fiers d'être de cette espèce de marginalité là, quoi, et on voulait défendre ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'on en rajoutait un peu quand on a commencer à signer sur une maison de disques, à aller rencontrer des gens du business, enfin du métier, quoi. Et donc on en rajoutait un peu dans le côté
dans l'attitude,
provoque, et dans le voilà. Donc je me suis un peu, je sais plus,
non,
ce que
c'était,
je voulais
dire.
C'était la jeunesse, quoi.
C'est la jeunesse.
Et puis le côté de s'être confronté à la réalité de beaucoup de musiciens, d'un quotidien, tu disais, où c'est pas tout de suite le succès.
Non, c'est ça.
C'est les tournées parfois un peu dures.
Ouais, c'était dur. C'était là que je voulais en venir. C'est que j'en suis fier de ça. C'est-à-dire que je me suis fait, et on s'est fait, à la force du poignet, quoi. C'est-à-dire que vraiment, maintenant c'est get in the van, comme disait Henry Rollins, quoi. Et c'est, tu vois, tu montes dans ton camion, t'organises tes concerts. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de... Tu vois, c'était qu'un réseau interne, quoi. Les réseaux sociaux, c'était les clubs, en fait. C'était les clubs où t'allais.
Puis un tissu associatif, peut-être, autour.
Voilà, un tissu associatif. Ouais. Et donc, on s'est fait comme ça, à la dure. Et je suis vraiment fier. Et je pense, encore aujourd'hui, continuer de porter cette idée de cette façon de faire de la musique et de promouvoir le truc par le travail, quoi. Je parlais de prolétariat tout à l'heure, j'aime bien que le musicien soit un peu un prolétaire, enfin que le musicien soit ou la musicienne soit des gens qui
grind, quoi,
qui bûchent, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense ne rien trahir en disant que toi tu viens pas forcément d'un milieu prolétaire.
Non, c'est parce que j'ai entendu
le distinguo en tant que musicien, c'est intéressant ce distinguo.
Oui, mais parce que on en parlait un peu tout à l'heure hors antenne, comme on dit. mes parents étaient des militants d'extrême gauche, plutôt des intellos. Mon père est sociologue, ma mère était prof, puis après ils ont ils ont travaillé ensemble et tout ça. Bref. Mais mine de rien, assez élitiste, en fait. Qui m'ont beaucoup encouragé à faire des études, tout ça. Et quand moi, je me suis destiné à une carrière artistique, mon père, il m'a dit, OK, mais va falloir taffer, mon vieux. on te laisse faire tes choix, quoi. Mais faut bûcher, quoi. Et du coup, je me suis vraiment. Mon père comprenait pas la musique que je faisais.
Et aujourd'hui, il la comprend quand même.
Mais à partir du moment où ils m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais, et à partir du moment où il savait que je voulais faire ça, il venait voir à tous les concerts et tout. Et il disait, ouais, je trouve que cette chanson elle est mieux que celle-là. J'ai eu cette chance-là, quoi, d'avoir été poussé par mes parents et encouragé là-dessus, ce qui est pas très punk. Hein.
mais c'est marrant justement se dire par contre, moi en tant que musicien, je vais me confronter à une réalité peut-être plus dure que celle à laquelle j'ai voilà. Dans mon cocon familial dans laquelle
mais,
j'étais.
Non, quoi. Mais
il
n'y
avait pas une envie de prouver justement.
Il y avait une envie de prouver que j'étais capable de faire ça et puis aussi une espèce de truc de terre brûlée, c'est que j'ai pas fait d'études donc j'avais pas le choix. Quelque part, il fallait que ça marche quoi.
C'est ça qui est marrant, fallait que ça marche. Mais d'un autre côté, tu vas directement dans un style musical où tu sais que globalement, ça marche pas. Enfin,
ouais, mais
tu vois,
ça c'est valable pour les gens qui sont pas les rois du monde. Moi, j'étais le roi du monde. Donc...
Ok.
Non, mais moi, j'étais persuadé que j'allais devenir le nouveau Bowie, quoi. Tu vois, enfin, j'avais la confiance, quoi. Puis, ouais. D'ailleurs, j'ai revu il y a pas longtemps un petit bout d'un truc de France 3 quand je suis allé à La Rochelle là, j'ai eu une interview de France 3 où ils montraient des images d'archives d'Asie, j'étais ah ouais quand même j'avais la confiance parce que c'était pas au point quand même. Chez mes parents il y a la valeur du travail. Mes parents, voilà, c'est aussi le réseau militant qui était comme ça. Et parce qu'il y avait. C'est aussi une défense de la lutte des classes.
L'idée de se former intellectuellement, etc.
L'idée de se former intellectuellement soi-même, de ne pas attendre que ça vienne des canaux habituels et qui sont. Qui ont le monopole de la légitimation, de ce qui est considéré comme
étant acceptable
et accepté. Ouais. Mes parents faisaient partie. Voilà, c'était un mouvement où c'était les cours du soir pour les ouvriers, c'était tout un tissu associatif d'entraide, le féminisme, l'antiracisme, l'antifascisme, tout ça. Donc moi j'étais baigné par ça. Et moi, j'ai aussi été là-dedans.
Il faut qu'on en arrive. On a compris ton amour pour le punk, comment tu l'as vécu, vraiment, même le punk.
Mais alors, c'est quoi ?
Mais arrive ensuite l'idée du post-punk.
Ouais. Ça n'a rien à voir avec les facteurs.
Est-ce que toi, c'est un truc qui te convient déjà pour déterminer la musique, même la musique que vous faisiez avec Asile ? Là, j'avais choisi un morceau qui était quand même très référent, d'ailleurs, il s'appelle 1975, très référence au punk, pas forcément le plus représentatif de ce que vous faisiez, mais j'aime bien ce morceau.
Ouais,
mais cette idée de post-punk, est-ce que toi, c'est un truc avec lequel tu es familier ? Tu peux nous en parler un petit peu ?
Ce qu'on appelle post-punk.
Ouais.
Ben, en fait, ce qu'on appelle post-punk, c'est à la fois tout et rien. C'est-à-dire que, en fait, c'est que le punk, c'est un espèce d'avant et un après. Quoi. Dans l'histoire du rock, c'était une manière de remettre l'église au centre du village, quoi. C'était de dire attention, il y avait un truc qui était en train de... Au départ, le rock and roll, c'était une musique de rebelle qui était un mélange de musique afro-américaine et de musique blanche américaine, de country et de blues, quoi. En gros, le rock and roll, c'est ça. Et avec une image de rebelle, puisque déjà à l'époque mélanger les cultures
surtout aux États-Unis
noires et blanches, c'était très compliqué, quoi. Et donc c'était un truc de rebelle et de marginal. Et à un moment, voilà, dans les années 70, le truc s'est un peu perdu. Le rock and roll est devenu une espèce de mastodonte sous stéroïdes et hyper mainstream, où on commençait à faire des solos qui duraient 8 minutes 30 et à voyager en jet privé et dans tout un espèce de sketch d'autosatisfaction. Et le punk a amené ce truc de dire non, fuck, nous, on est des. on est des méchants, on est des sales gosses, on veut faire des fuck à tout le monde. Et c'est ça le rock. Et
revenir à une base aussi au niveau musical, plus minimaliste,
plus rentrer 3 minutes 30. C'est des chansons qui ressemblent à des boulets de canon et c'est pas autre chose, quoi. Et avec 3-4 accords et basta. Et de là, c'est un peu secoué, je pense, le rock'n'roll, quoi. Et ça l'a aussi un peu enterré. Et donc, de là, après, on commençait à émerger des groupes qui se sont dit, sur les cendres de... C'est comme si c'était un énorme cataclysme, le punk, et sur les cendres de ça, maintenant, on peut repartir sur des bases plus saines et refaire un son qui va peut-être être plus sophistiqué. Mais avec l'esthétique du punk qui découlait un peu du glam rock, donc voilà, une espèce de
une réinterprétation,
et donc avec une esthétique très minimale, des lignes claires, peut-être un peu plus sombre, un peu plus froid, une espèce de glamour froid, qu'on commençait à se mettre en costume, qu'on commençait à s'habiller en noir, avec une musique très anguleuse et très, très épurée. Et voilà, des groupes comme Joy Division qui ont commencé à faire ce son-là. Après, il y a eu ce qu'on appelle les New Romantiques, tous les Japan, Alphaville, enfin des groupes qui, pour moi, tout ça découle du punk et la New Wave, quoi, ce qu'on appelle la New Wave, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que la New Wave est un dérivé du post-punk, voire que ça s'intègre dans le post-punk, qui serait un ensemble, un tout, avec quelques scènes plus précises?
Oui, post-punk, ça peut aller de Joy Division, qui est en fait un espèce de punk plus sombre, quoi, à Depeche Mode, qui est Just Can't Get Enough. C'est pas un morceau très sombre, tu vois. Mais il y a quand même en commun cette espèce de froideur, de rigueur, de métronomie. Et puis aussi, c'est quand à un moment les punks ont découvert les sons électroniques, les boîtes à rythme, et se sont dit, mais attends, pourquoi nous on ferait pas des morceaux pour les dance floors? Et je pense que c'est ça aussi la New Wave, quoi. Il y a notamment un morceau qui est Blue Monday de New Order, qui est pareil, il y a un avant et un après, quoi.
Histoire incroyable, j'étais dans un McDonald's il n'y a pas très longtemps, ouais. Et il passe Blue Monday. Et en plus, mais tu sais, la version longue, enfin tu sais, le morceau, je sais pas s'il y a eu des radio edits ou un truc dans le genre, mais genre il fait la joie 7 minutes 29, tu vois, et c'est cette version-là qu'ils ont passé dans le McDo, incroyable. Et je me suis repris, parce que j'attendais ma commande, et je me suis repris le morceau, et je me suis fait, mais putain, c'est une telle tuerie ce morceau.
C'est incroyable.
On se met un extrait?
McDo,
ah
bah,
carrément.
McDo d'Aubervilliers. Okay. Improbable, hein.
Ok.
Allez.
New Order, ça veut dire nouvelle commande, ce qui est un peu logique.
<C'est vrai.
Ça fait partie de la famille, au sens large, post-punk, quoi.
On voit des refs sur les guitares.
C'est de la musique de Demo Maker sur Amiga et Atari ST, ça, tu vois. Donc, ok. J'en écoutais, en fait, alors. Incroyable.
Ouais, c'est ça.
Là, normalement, t'as un cube en 3D qui tourne et qui change de
couleur.
C'est ça.
Je mets juste la voix et on arrête. Incroyable. premier morceau, et dans cette édite, enfin, l'original qui est long, j'ai été étonné, en fait, de la radicalité, tu sais, du kick qui envoie un peu des breaks, des moments où t'en envoie un peu plein la gueule, tu vois. Et c'est pas que le côté mélodique qui fonctionne, dance floor, etc., quoi.
Non, c'est. Ouais, c'est un morceau étonnant et qui a fait plein de petits derrière. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des chansons pensées pour les dance floor, mais qui ne soient pas de la disco et qui soient plus froids et qui correspondent un peu aux gens qui aiment ce son-là, un peu, qui est un peu plus dangereux que la disco. Mais il y a aussi un mouvement, un des sous-mouvements qui est disco punk, qu'on appelait disco punk. Enfin, tous les Blondies, groupes comme ça, qui étaient des groupes de punk qui faisaient. C'était des groupes aussi américains. À l'époque, à New York, il y a eu pas mal de. La scène qu'on appelait No Wave, pour moi, fait partie aussi de la grande famille post-punk, quoi. Avec des groupes comme ESG, Liquid, tout ça, qui étaient des groupes où il y avait déjà aussi un espèce de mélange avec la culture hip-hop, quoi. ESG, c'est très. D'ailleurs, je crois que c'est un des groupes les plus samplés par le hip-hop, quoi. De toute façon, quand je disais que ça a remis l'église au milieu du village, c'est que le punk, ça a ramené aussi ça en commun avec le rap, c'est une musique qui vient de la rue, quoi. Et qui est une musique faite par des gens de la rue, pour des gens de la rue, quoi. Et il y a un côté assez démocratique, œcuménique dans le.
Mais est-ce qu'on est sûr qu'en termes de public, ça a vraiment été pris par les gens de la rue? Est-ce que c'est pas surtout.
Ah oui.
Non, parce que tu vois, le rap, c'est pareil. Enfin.
Oui, mais c'est.
Pas uniquement, tu veux dire?
Le rap, il a vraiment explosé à partir du moment où les petits, justement, des banlieues plutôt bourgeoises ont commencé à en écouter, sont appropriés les codes et tout.
Bien sûr, mais ça, c'est le point de départ.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, quand t'as un groupe comme NWA qui sort, ou même le Wu-Tang, en fait, les gars qui vivaient ce que NWA racontait dans leurs morceaux, ils écoutaient même pas du NWA, ils écoutaient de la soul ou ils écoutaient du funk,
je pense.
Et en fait, c'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent justement de la rue pour la rue, mais en fait, la rue, elle écoute pas ce que tu fais. Parce que la rue, elle s'écoute pas elle-même,
En l'occurrence, pour moi, dans le punk, en tout cas, dans l'ancrage vraiment anglais, britannique, les gosses de la classe ouvrière écoutaient du punk et en faisaient. Il y avait quand même un vrai ancrage à ma connaissance sociologique.
Et du reggae.
Ouais,
c'était d'ailleurs la musique. L'autre musique qu'écoutaient les punks anglais, c'était le reggae.
On retrouve dans la culture skin d'ailleurs, mélange.
Les skinheads. Donc quand on dit les skinheads, les vrais skinheads, pas
les originaux.
Les fachos.
Pas les fachos.
Oui, il y a ce très bon film, là, This is England, qui explique assez bien la scission qui a pu exister. Si jamais certains veulent s'intéresser à ça. Il y a un autre terme dont il faut qu'on parle, parce que on a parlé de post-punk, on a parlé de New Wave, avec l'exemple évidemment de Joy Division. Tu vois, voilà, justement, j'arrive de New Order, mais parfois on parle aussi de Cold Wave. Alors, quelle nuance? Est-ce que par exemple la Cold Wave, ça serait pour définir Joy Division, là où la New Wave, ça serait plus New Order, ou on n'y est pas du tout?
Je sais pas, parce qu'après, personne n'a jamais su vraiment cette question, tu vois. Oui, c'est ça, Cold Wave, pour moi, c'est une sous-strate de la New Wave, quoi. Ouais. C'est Joy Division, c'est Susie and the Banshees, c'est parmi les plus sombres et les plus, plus dark.
Et alors je te pose des questions, parce qu'en fait tous ces termes, toutes ces esthétiques, c'est des choses que tu peux revendiquer, ou en tout cas quand on écoute ta musique, on se dit tiens, ça évoque aussi ces choses-là.
Oui, moi je le revendique, c'est plus que je l'assume plutôt que je le revendique, parce que moi je veux pas me dire ouais, je suis un mec de la Cold Wave, mais disons que j'ai l'impression moi de continuer à faire ce son-là. Il y a eu c'est une esthétique, en fait, et c'est une famille et une façon de voir les choses. Moi, j'aime ce qui me touche là-dedans, c'est ce côté minimal, une espèce d'élégance froide, une espèce de glamour aussi, un sens aussi une esthétique aussi des fringues.
Ouais.
Il y a une façon de s'habiller.
C'est l'héritage britannique, ça. Ça va souvent de pair.
Voilà. Et puis, il y a aussi une espèce de flou au niveau du genre. Il y avait un truc un peu comme
androgyne,
ça, donc, une androgynie, ouais. Ou une, enfin, à l'époque on aurait dit ça comme ça, ouais. Ce qu'on dirait gender fluid aujourd'hui, quoi. Mais il y avait, c'est ça, cette espèce de truc où les garçons se maquillaient, les filles se mettaient en costume pour hommes, et voilà. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours parlé aussi, ce côté, voilà, pourquoi être dans ces, tu vois, que
binaire.
Que ces constructions sociales autour du genre soient aussi marquées, que après tout, pourquoi j'aurais pas le droit de monter sur scène avec un pantalon en panthère et un boa, quoi, enfin, et un fume-cigarette, et ça c'est le genre de truc qui moi, enfin, moi j'ai jamais fait ça spécialement, mais je veux dire, c'est, enfin, en tout cas moi c'est un truc qui me parle, enfin, ce truc, espèce de truc chez les Sex Pistols, t'as aussi une androgynie, enfin, t'as aussi une espèce de, et en même temps c'est aussi un truc très mec, enfin, c'est, il y a un flou et qui moi me parle, me touche.
Qu'on retrouve d'ailleurs dans ce parfum qu'on qualifie de proto-punk, MC5, New York Dolls, etc. Ouais. Hip-hop, où déjà il y avait ces mélanges. Je pense en particulier aux New York Dolls, évidemment.
Oui, puis surtout quand on était... le rock, et même moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, tu vois, à l'époque d'Asile, je pense que je dois être un des hétéros qui a pris le plus de remarques homophobes. c'était terrible, quoi. Comme on était un peu looké et tout. Enfin, c'était un truc comme à l'époque, voilà. T'avais le truc rock'n'roll de, tu vois, les fans de Motorhead ou quoi.
Manowar.
Ouais. Et dès que tu montais sur scène et que t'étais un peu looké différemment, fallait voir ce qu'on se prenait, quoi. Donc. Mais moi, ça m'allait dans le sens où c'était ça aussi. Je parlais de faire un fuck aussi. C'était une manière de dire, mais moi, votre vieux monde de
ouais, un peu plan-plan.
Plan-plan de mecs qui costauds qui ont envie de se taper. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Donc,
on préfère les mecs pas costauds qui ont aussi envie de se taper.
Au moins, ils sont courageux.
Non, mais qui ont envie de parler. Le culte macho du rock. Ouais. Enfin, c'est.
Ce que je vous propose, c'est que justement, on embraye sur la deuxième partie. On a compris d'où tu viens d'une certaine manière. Et puis arrive évidemment ce lancement en solo. Parlons de ce passage du groupe au solo. Et puis qu'on écoute quand même aussi ta musique, justement, un peu plus récente, entre guillemets, qu'avec Asile. Premier album, je disais, 2012. Peut-être pour faire le lien, est-ce que sur Les Scopes, puisqu'il s'appelle comme ça l'album, il y a un morceau qui pour toi est dans une filiation directe avec ce dont on parlait jusque-là?
Est-ce qu'il y a un morceau qui...
Ouais,
qui
dans une filiation un peu directe avec tout ce dont on parlait, toutes les esthétiques, punk, post-punk, cold wave,
avec
etc.
moi?
Ouais, dans cet album-là en particulier.
Ah d'accord, pardon. Est-ce qu'il y a un morceau qui est particulièrement... moi je dis, on te dire la forêt. Hein,
non, la forêt
mais, parce que c'est quand même vraiment... Mais si je dois... Allez non, ouais, je vais quand même essayer de ne pas mettre la forêt parce que c'est trop facile.
On l'écoutera aussi.
On l'écoutera aussi, ouais. Non mais... moi, un de mes morceaux préférés de cet album, c'est un morceau qui s'appelle Ljubljana.
Ouais.
Parce que c'était voilà, j'avais écrit ça après on était allé voyager en Slovénie avec ma meuf à cette époque et on avait vu qu'un super moment à Ljubljana et j'avais écrit cette chanson après.
Et bon, on s'écoute.
Marchons tous les deux dans cette ville morte. Le regard belliqueux, tu me servais d'escorte. Nous marchons tous les deux âmes dans la nuit. Nous marchons tous les deux trempés sous la pluie.
En écoutant cet extrait d'Az, il y a évidemment un truc marquant, c'est que là, ça chante en français.
Ouais, mais ça passe. Hein.
ça a été un passage... Alors, tu chantais déjà en français dans Asile, mais quand tu t'es dit, bon, maintenant, je vais faire un truc qui est à moi, entre guillemets, c'était naturel le français?
Oui, oui, bah moi je voulais, moi c'était plus que naturel. Enfin, je voulais même, c'était même une
volonté.
Une volonté, puis un.
Un besoin.
Un statement, quoi. Enfin, moi, je voulais, je me disais, il n'y a pas de truc. Tu vois, à l'époque, en plus, tous les gens qui faisaient un peu du son cool, ils chantaient en anglais. Je me disais, mais non, mais moi, j'ai envie de le faire en français. Et je me disais, si j'arrive à le faire en français, ce sera encore plus fort. Et j'avais pas tort. mais c'est moi, c'est ce que je trouve frappant, tu vois, quand on écoutait Asile et on écoute ça, c'est le comme. C'est beaucoup plus épuré, quoi. Et comme est-ce que Johnny Hostile qui a produit le disque, il m'avait dit ça à l'époque. Il m'a dit, ouais, il faut que ce qui est important dans la musique, c'est le silence. Et c'est ce que tu joues pas, c'est pas ce que tu joues qui est important.
Et ça va à l'envers de ce que tu revendiquais avant.
Ouais,
en fait.
De ce que je faisais, ouais. On était tout dans l'excès. Ouais. Tu vois, et on t'écoute. Tu vois, le 1975, là, qu'on a écouté tout à l'heure, c'est. Ouais. Tu vois, t'as l'impression que tout le spectre, c'est un rectangle, quoi. Et là où chaque son qu'il y a dans la chanson,
il y a de la place.
Se réverbère dans l'espace, il y a de la place, et il y a beaucoup plus de place au silence, en fait. Et ça, moi, je m'y retrouve beaucoup plus là-dedans.
On parle du texte qui est forcément lié à la voix. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé marquant dans cet album, et surtout en fait au regard des albums suivants, c'est à quel point ta voix, il y a souvent des effets, pas mal de réverb. Est-ce que c'était une volonté esthétique? Est-ce que s'il y avait une part aussi un peu de se dire, est-ce que j'assume complètement ma voix un peu dry?
Non, mais c'est parce que c'est une manière de, justement, quand tu mets peu d'arrangements, quand tu mets de la réverb, ça remplit l'espace. C'était une manière de pouvoir mettre peu, de remplir l'espace avec peu d'éléments, je pense, la réverb. C'est pas un truc de, non, moi, j'ai pas de problème avec ma voix. Enfin, à l'époque d'Asile, ouais, j'aimais pas ma voix et tout. Et d'ailleurs, même que tu vois, quand on réécoute là, non, mais c'est vrai, j'aime pas trop ma voix d'Asile. Alors que là, tu vois, j'ai pas un complexe par rapport à ma voix, quoi. Ma voix, elle est simple, mais elle me permet d'exprimer ce que j'ai à exprimer.
D'ailleurs, ça c'est. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, on peut faire un peu des catégories de chanteurs. Tu sais, parfois on dit d'ailleurs, il y a le chanteur à voix, entre guillemets, puis il y a l'autre qui va avoir peut-être un timbre intéressant, mais qui est pas forcément extrêmement habile, entre guillemets, avec sa voix.
Ouais.
Tu vois ce genre de truc. Je sais pas si tu te retrouves. Tu te mettrais dans une forme de catégorie, t'as un rapport un peu à ton aisance vocale, entre guillemets.
Et moi, je suis pas un chanteur à voix. Je suis presque pas un chanteur du tout. Mais c'est-à-dire que moi, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé. C'est que moi, je me destinais à être acteur. Et j'ai fait un conservatoire pour être comédien. Et
comédien de théâtre ou...
De théâtre, ouais. Et j'ai commencé. C'est le seul métier que j'ai vraiment appris, en fait. J'ai appris l'interprétation du texte. Et comme j'écrivais, je me suis dit, voilà, je voudrais dire mes mots à moi. Et le chant, c'était dans un groupe, c'était une bonne manière de le faire. Donc moi je suis plutôt un auteur acteur dans un groupe, enfin qui se met à chanter. Aujourd'hui je suis pas dans un groupe, mais c'est une manière pour moi de dire des mots. Moi, si tu me demandes de te chanter une mélodie, je vais mal la chanter. Si je mets des mots dessus, je vais mieux la chanter. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, mes textes, c'est ce que j'écris en premier. Je suis incapable de trouver une mélodie tout seul, une top line, tu vois. Je sais pas faire. Mais avec des mots, oui. Parce que je suis un homme de mots, quoi. Enfin, je suis une personne qui c'est ma porte d'entrée dans le chant, c'est les mots, quoi.
Donc chaque morceau, tu débutes par le texte.
Ouais. Ouais.
Comment t'écrivais depuis longtemps? Parce que quand on monte un projet plus personnel, comme c'est le cas de Lescope, est-ce que on se laisse vraiment aller à une forme d'instinct, ou est-ce qu'il y a un peu une réflexion sur ce que t'as envie d'être, entre guillemets, tu vois, en tant qu'artiste solo?
Envie de véhéculer, surtout.
Ouais, est-ce que t'as envie de véhiculer? Est-ce qu'il y a eu une construction un peu presque intellectuelle, entre guillemets, de ce que t'allais faire, ou...
C'était organique et
freestyle. Il y a eu une réflexion... à l'époque, avec Johnny Hostile, justement, on en avait pas mal parlé à l'époque. Et il me disait, ouais, lui, il m'a même pas mal aiguillé au départ sur dire, ah, ça, je trouve ça mieux quand t'écris sur ce thème-là.
Mais c'est, en fait, c'est quoi le. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic de vouloir partir en solo? C'est que le groupe te suffisait plus ou...
Ben, le groupe s'était arrêté déjà.
Ouais,
et,
voilà,
et puis, je voulais faire autre chose. Je voulais justement travailler avec Johnny Hostile. On avait envie de travailler ensemble. Et puis, en fait, au départ, on a même pensé à faire un projet tous les deux. Puis, me dire, ah non, moi, je préférais faire un projet solo pour toi. Et donc. C'est ce qu'on a fait. Et puis, et il aimait ce que j'écrivais. Il m'a dit, ouais, tiens, donc ce que je disais, voilà, peut-être écrit là-dedans. Il dit, ah, en fait, je trouve ça cool quand t'écris des trucs d'amour. Parce que c'est le contre-pied d'Asile qui était dans un truc de guerre et d'agressivité. Et, tout ça. Et il dit, voilà, quand j'écrivais des chansons pour ma meuf, pour. Dans le registre amoureux, ça.
Et toi, justement, en termes d'image, de ce que ça, le fait que tu prenais un contre-pied par rapport à ce que tu faisais avant, t'as pas eu de réserve par rapport à ça, en mode
non.
Ah non, je vais faire le mec romantique.
Non, non, mais moi je trouve ça cool de faire le mec romantique. Mais c'est aussi quelque chose que je voulais un peu faire déjà à l'époque d'Asile, mais j'avais pas vraiment la place pour le faire parce que. Et j'avais déjà commencé à écrire un peu des chansons, mais quand je leur faisais écouter un peu des trucs que je faisais, ils disaient « Ah ouais, mais c'est pas pour nous, quoi. » Et donc, d'ailleurs, certains trucs du premier album d'Asile, c'était des trucs que j'avais déjà commencé un peu à gribouiller à l'époque d'Asile. Sur le premier album de Lescope, il y avait des morceaux que j'avais déjà commencé un peu à mettre en branle au moment d'Asile. Et voilà. Mais non, moi c'était je voulais faire ça, je voulais faire un truc plus sensible. Moi je suis un gros fan de Lou Reed aussi. Et moi je voulais mon rêve c'est d'écrire Walk on the White Side, des morceaux comme ça, quoi.
Ça va, c'est cool.
c'est un bel objectif. C'est intéressant parce que on se disait donc que tu pars du texte, un truc j'imagine. Enfin, tu dis que toi t'es un homme de texte avant tout. Enfin, que ça a toujours été ton truc. T'écrivais même, j'imagine, avant de faire de la musique, c'est ça?
Oui.
Arrive le texte, ensuite il faut le mettre en musique. Tu parlais du rôle de Johnny Hostile sur le premier album. Vous avez fait le deuxième aussi ensemble. Sur le troisième, tu as changé d'entourage cette fois. Peut-être qu'on peut parler rapidement de ça, parce que sur le premier album, il a le rôle donc de réalisateur. Ça signifie quoi? Que tu arrives avec un texte et que derrière, tu vas confier quasiment l'intégralité de la musique à quelqu'un, que tu vas plutôt maqueter, que c'est la personne qui va ensuite arranger. Enfin, quel est le rôle du réalisateur sur le premier album, par exemple?
Sur le premier album... C'est ça dépend des chansons. En fait, il y a des La Forêt, c'est moi. C'est moi qui compose texte.
Donc c'est à dire que comme tu le disais, t'es pas un instrumentiste à la base.
Non,
c'est quoi?
Je fais de la guitare, de la basse et de la guitare, quoi. Et donc j'étais arrivé avec une démo, voilà. Et lui a fait les arrangements et l'esthétique, quoi. Et après il y a des morceaux comme sur le premier album, il y a un morceau qui s'appelle Le Mal Mon Ange. Et là pour le coup c'est vraiment un instru de lui sur lequel j'ai plaqué un texte. Il y a des trucs qu'on a un peu fait tous les deux. Je me souviens plus quel morceau exactement, mais voilà, il y a certains morceaux qui sont entièrement de moi. Il y a certains morceaux qui sont un peu des collabs, et il y avait aussi un garçon qui s'appelle Gaël Etienne, avec qui je collaborais à l'époque, et qui, voilà, c'était des morceaux pas mal, voilà, des morceaux comme Ljubljana, Le Vent, tout ça. Il y a un peu une espèce de co-signature, quoi, de la musique, mais ça partait toujours d'accord à moi, mais qui était un peu rudimentaire, enfin un peu, voilà, ça se cherchait un peu, le morceau se cherchait un peu, et avec Gaël et Johnny Hostile, on arrive à en faire une vraie chanson, quoi.
Donc c'est vrai que le rôle d'un réalisateur, on n'en parle pas souvent. C'est parce que pour le troisième album, on en reparlera. Mais t'as à nouveau fait appel à quelqu'un pour ça.
Mais là, c'est différent maintenant. Parce que sur le troisième album, là, j'ai complètement. C'est entièrement des compos de moi. Que là je suis seul maître à bord au niveau de la composition et de l'écriture, et Thibaut Frisoni, qui a réalisé le disque, s'est chargé des arrangements et de l'esthétique du truc. Mais
voilà. On s'écoute La Forêt.
Ouais,
il faut quand même. Ah oui, le tube.
assourdi. Tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti et fais bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé. Situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne.
Donc ce morceau, tube, est-ce que toi, en l'écrivant, tu sentais qu'il y avait un truc spécial?
Ouais. Ah ouais,
ouais, ouais.
Ouais, carrément. Et déjà, même quand c'était qu'un texte?
Quand c'était une maquette. Non, le texte, bon, je savais pas. Non, peut-être pas quand même. Mais je veux dire, mais quand j'ai commencé à trouver les accords et le refrain, et aussi avec la double voix, la machin, j'étais, ah, quand même, c'est pas mal ce truc. Et je m'étais dit, ah ouais, moi j'étais content de moi, quoi.
Tu l'as même presque fait dans cet objectif. Tu voulais que ce soit un morceau rassembleur qui plaise au plus grand nombre?
Non. Enfin, oui, mais je voulais que tout soit comme ça. Donc, pas particulièrement celui-là. Moi, j'ai toujours voulu faire des tubes. Non, mais je trouve que la musique, ça sert à ça, quand même, à fédérer des gens. Et c'est quand même le super pouvoir de la musique, c'est de rassembler. Donc, moi, je voulais puis j'ai toujours, moi, j'avais hyper envie que ça marche, quoi, d'avoir du succès. Pour mon travail, quoi. Pas c'est pas simplement pour mon ego. Il y a une part d'ego, évidemment, j'imagine, mais aussi parce que voilà, je crois en ce que je fais et c'est important. C'est bien que ça marche quand tu crois ce que tu fais. C'est super que ça rencontre son public, quoi. Et, oui. Non, après, mais j'ai eu juste un petit doute. On l'a enregistré à Londres et quand je suis revenu, je dis, ah, je sais pas en fait. Je me dis, putain, merde, parce que je plaçais un peu désespoir dans ce morceau et j'ai eu un doute et je me dis, en fait, peut-être je suis passé un peu à côté. Je l'ai réécouté les prises et je dis, ah, c'est pas terrible en fait. Je sais pas, je trouvais que la voix c'était faux et tout. Et puis j'ai fait écouter à ma meuf, elle m'avait dit, oh, non. Elle me dit, non, c'est vachement bien, t'es pas du tout passé à côté et tout. Puis en fait, on l'a fait mixer par un Anglais, Dave Bascom. Et quand j'ai eu le mix, je dis, ah ouais, non, c'est bon, c'est cool. On s'est pas planté. Et je me rappelle très bien du jour où on l'a sorti, et c'était d'entrée de jeu, justement Johnny Hostile qui m'appelle, qui me fait, bon, bah là, on a lâché le morceau, et ça a tout de suite. C'est devenu viral assez vite. Il y a tout de suite eu, hein, de l'engouement autour de ce morceau et j'étais hyper content que ça m'arrive parce que ouais, j'avais 33 ans, tu vois, ce qui était déjà bon, t'es un peu t'es pas si jeune que ça, quoi. Donc tu vois, pour qu'il t'arrive quelque chose, c'est le bon moment, quoi.
Comment tu le vis justement comme un truc positif, ça on l'a bien compris, cet engouement, mais le truc c'est que c'est pas seulement un engouement du public, c'est aussi un intérêt médiatique, c'est aussi mise en
avant. Une autre sphère, en fait.
Ouais, ouais, carrément. Ouais.
Et ça peut être aussi flippant, un peu, ça, quand même, non?
C'était vertigineux, parce que il y a eu un moment où j'ai perdu un peu les pédales. Enfin, pas le mec qui pète un plomb et qui achète une Ferrari, mais c'était épuisant, en fait. Enfin, c'était fatigant. Les deux premières années, c'était. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé. Oui, mais tout, la tournée. Bah, tu vois, je suis arrivé, je suis arrivé à Paris, j'avais pas une thune, j'habitais à Vitry. J'avais vraiment.
9-4, toujours.
9-4, quoi.
Bien sûr.
J'habitais à côté de chez Rimka, d'ailleurs. Et je le croisais tout le temps dans mon quartier. Lui, je pense qu'il se rappelle pas de moi, mais moi je me rappelle bien lui. J'étais en galère et j'étais au RSA et tout. Et en fait, on sortit le morceau et.
Boum.
Et quelques mois après, vraiment, j'avais de la thune. J'étais invité à plein de soirées, des défilés de mode, des trucs pas possibles. Et puis la tournée commence, et là, on était demandé partout. Et j'ai eu mon fils à ce moment-là. Donc, j'en ai pris plein la gueule. Et à un moment, enfin, j'étais un peu parti en burn-out. Et d'ailleurs, c'est un truc que je trouve dont on parle aussi pas assez, c'est la santé mentale des artistes, c'est un vrai sujet, je trouve. Parce que quand il t'arrive des gros moments comme ça, c'est très dur à gérer, en fait. Et je pense que le public ne se rend pas compte de ça.
Tu as le sentiment d'être livré à toi-même à ce moment-là?
Ouais, et puis il y a une espèce d'angoisse, quoi. Enfin, tu dors très peu, c'est ultra validant aussi, tu vois. Donc, tu as l'impression d'avoir toujours raison, et tu as l'impression que c'est aussi toi qui a la gêne, qui. Tu dis oui, mais c'est moi, c'est parce que je me donne à 100% et c'est pour ça que ça marche. Alors qu'en fait, des fois, tu peux te donner à 100%, puis ça marche pas, tu vois. Et tu peux des fois confondre ton énergie à toi avec l'énergie de ton travail. Et c'est pas la même chose. Et moi, j'ai eu un moment quand j'ai perdu les pédales, c'est qu'il y a eu un moment de confusion entre ça. Entre le fait de croire que c'était moi, c'était évidemment se mettre à 100% dans ce qu'on fait, c'est hyper important et c'est ça qui fait les bons morceaux. Mais il y a aussi les morceaux, ils ont leur propre énergie après. Et que des fois, tu mets beaucoup d'énergie dans des trucs qui ne marchent pas. Et que.
Il faut l'accepter en fait.
Et qu'il faut l'accepter. Mmh. Et que. Et d'ailleurs, tu vois, mon deuxième album a moins bien marché. Et bon,
comme beaucoup de deuxième albums.
Comme beaucoup de deuxième albums, finalement, tu vois. Et c'est pas grave. C'est pas... Faire des tubes, c'est pas la seule manière de faire de la musique. Et voilà. Et ça, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Et là où j'en suis maintenant, c'est le fruit de tout ça, d'avoir à la fois vécu cet engouement, ce succès sur le premier album, un peu moins sur le deuxième. Après, j'ai eu une espèce de traversée pas très facile où bon, bah, ça s'est terminé avec Johnny F. Steele, avec Pop Noir, donc, qui était le label des deux premiers albums. Ça s'est pas très bien terminé, on n'était plus du tout d'accord sur ce qu'on voulait faire.
D'un point de vue artistique, ou il y a eu aussi une part business, une part...
Ouais, je n'ai pas envie de m'étendre sur les détails, mais oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais un premier album, en fait, tu n'es pas spécialement attendu, donc tu fais ce que tu as envie de faire, ça cartonne, et là, tu te dis, merde, il faut que je sois capable de réitérer, donc est-ce que
oui,
du coup...
Oui, c'est ça, mais c'est un peu... c'est le coup de la chansonnette, quoi. C'est, et tu ne veux pas nous la rejouer, là. Moi, j'ai eu un problème avec ça. C'est le truc, en fait, c'est aussi ça. C'est qu'il y a l'aspect disruptif dans la musique. C'est souvent ce qui marche parce qu'un morceau, il est différent. Et il pop parce que il est différent.
Au bon moment aussi.
Au bon moment, il y a un timing, machin. Et,
qu'on maîtrise pas toujours.
Et qu'après...
Jamais même, en fait.
Oui. Mais on peut le provoquer. Mais oui. Et après, on peut aussi.
Favorable.
Mais on se dit, ouais, mais en fait, c'est moi, j'ai tout pigé, c'est parce que j'ai fait ça au bon moment et tout. tu deviens une espèce de. Tu vois, tu te crois. Et en fait, bon, et après, il y avait mon entourage qui commençait à me dire, oui, il faut surprendre les gens tout le temps. Si ça a marché, la forêt, c'est parce que c'était surprenant. Et il ne faut pas que tu refasses le même son.
Je précise juste d'ailleurs pour contextualiser, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la forêt, malgré que ce soit un tube, parce qu'on peut passer à côté. Oui, mais c'est des trucs qui te valent des invitations chez Ruquier, les trucs comme ça,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'est gros, quoi.
Ouais, voilà, donc, c'est ça.
Je comprends que ça puisse. Putain, il y a le deuxième album qui arrive parce que.
Bah, donc, t'as une pression, ouais.
Bah là, on est en 2012, le deuxième album arrive en 2016. Mm. Tu prends quand même 4 ans, ce qui est acceptable mais qui n'est pas non plus méga long.
C'est quand même long, ouais.
C'est super long, 4 ans.
Ouais, ouais, c'est long, ouais.
Dans les années 2010.
Bah, aujourd'hui, c'est aussi parce que le deuxième album, on a mis du temps à le faire. Et oui, je vois où tu veux en venir, Salman. C'est que tu vas me dire que j'ai mis encore plus de temps entre le deuxième et le troisième.
Oui, ça. Il y a eu 8
mais
ans.
Mais on va y venir,
en
8
ans.
Et après, donc 4, 8 et ensuite.
Mais parce que déjà, en fait, j'ai l'impression que tout le monde a paniqué autour de moi après le premier album. Et tout le monde voulait. Voilà, reclaquer un tube, re-être surprenant, re-être disruptif. Moi, j'étais, attendez, moi, je suis juste un mec qui fait des chansons, en fait. Et moi, je pensais que j'avais des bonnes chansons sur le deuxième album. Et c'était pas, on n'était pas d'accord là-dessus avec mon entourage à l'époque. Et.
Ouais, voilà. Pardon. Ouais.
Non, mais du coup, le deuxième album a été un album un peu de pas de commande, mais enfin qui m'a été un peu imposé. Et là, pour le coup, qu'on a complètement co-signé avec Johnny F. Steele, et c'était pas l'album que je pensais faire.
Parce que le premier album, il sort donc sur ce label, Pop Noir, dont on parlait. J'imagine que quand il y a l'idée d'un deuxième album et qu'il y a eu, il y a eu un succès pour le premier, la question aussi du métier de musicien, elle se pose différemment quand même. Et de l'entourage, du label, d'injonctions parfois économiques aussi. Ou en tout cas, tu vois...
Bah elle se pose déjà. Alors qu'avant, elle se posait peut-être pas tout court, ces questions-là.
C'est vrai. Mais bon, après, tu connaissais le milieu de la musique quand même. Mmh. Tu avais déjà sorti des disques, etc. Ouais. Avant même le premier, tu avais un peu conscience de ces choses.
Oui, mais il n'y avait peut-être pas cette logique commerciale. Que...
Non.
Tu vois, la pression.
Est-ce que tu avais les bons interlocuteurs à ce moment-là? Parce que être musicien, ça suffit pour comprendre ce qui se joue réellement. C'est pas évident. Alors, tu parlais de soutien psychologique qui apparemment t'a manqué. Alors, déjà, ça, c'est une chose. Mais même tout simplement de, bah ouais, comment on va la distribuer? Qu'est-ce que je signe comme contrat? Est-ce que tu t'es déjà engagé sur un deuxième album d'ailleurs? Est-ce que tu avais l'impression d'être soutenu et qu'on te suivait dans une voie artistique?
Non. Mais je vais.
On n'est pas obligé de rentrer dans les détails si t'as pas envie, mais juste toi, par rapport à cette idée que c'est un métier d'être musicien.
Oui,
tu vois.
C'est un métier d'être musicien et de faire de la musique, mais le problème, c'est qu'il y a aussi cette partie business et qui, je sais, vous intéresse ici et que c'est intéressant d'en parler. Mais pour répondre à ta question, non, je me suis pas senti entouré à ce moment-là, enfin, en tout cas, pas de la bonne manière, pas de la manière dont moi j'aurais souhaité. Bon, c'est comme ça. On a fait un travail excellent, je pense, avec Johnny Hostile sur le premier album. J'ai la sensation d'être passé à côté de mon deuxième pour plein de raisons, mais ça ne doit pas effacer la qualité du travail et la complicité qu'on a eue, qu'on a plus aujourd'hui. Bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est un garçon très talentueux il y a eu un moment ça a fonctionné, un moment ça a plus fonctionné.
C'est marrant cette idée de... Moi j'avais pas conscience, je savais que le deuxième album avait moins marché que le premier, mais j'avais pas cette idée de dépossession presque un peu dont tu parles, et qui peut être étonnante dans le sens où tu es auteur de tous tes morceaux, parolier, c'est tes textes, y compris sur le deuxième album, j'imagine. Oui, oui, oui. Donc ça doit être un truc très bizarre de dire à la fois j'ai été dépossédé, mais en même temps c'est mon texte.
Oui. Ouais, mais la direction.
C'est ça, c'est une question de DA entre guillemets. De...
Bah, puisque tu disais que le premier album il avait été fait un petit peu collectivement, finalement, je pense qu'à un moment donné tu poses peut-être la question de mais en fait c'est quoi mon son, tu vois?
Oui, mais c'est ça, c'est, à un moment c'est aussi de me dire je suis qui, ouais. Et exactement. Et est-ce que je peux générer moi-même un son? Et je me suis posé cette question-là. Et j'ai dit, c'est quoi mon son, en fait? Parce que
t'as envie de te prouver à toi-même aussi que t'es complet, en
ouais.
fait.
Mais c'était compliqué. Et j'avais comme une espèce d'intuition que j'étais capable de faire mon son. Et je voyais globalement ce que c'était, mon son. Mais j'ai eu besoin de faire l'album que j'ai fait là, mon troisième album. Là, j'ai compris. Après, en fait, voilà. On s'est brouillé avec Pop Noir et tout ça, et je suis parti de ce label dans des conditions pas, enfin, c'était pas ouais. Humainement c'était pas au top, et moi j'étais pas au top non plus, ça m'a beaucoup affecté, je suis passé par ce qu'on peut appeler une déprime, ça a été assez dur pour moi.
Donc après
la tournée du deuxième album,
ouais, parce que la question c'est combien de temps après la sortie du deuxième album t'as coupé les ponts, en fait?
Ben, à la fin de la tournée, en fait. Enfin, déjà, ils sont pas venus une seule fois me voir jouer en tournée.
Ouais.
La rupture était déjà consommée et j'étais déjà un peu tout seul. Mais en même temps, la tournée, c'est ce que j'ai fait quelque part. C'est le premier truc, le premier move vraiment solo que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis vraiment... j'avais plus vraiment mon entourage. Donc je me suis dit, j'ai mes musiciens, musiciennes, et je fais mon truc. Et j'y vais. Et je le prends en main, quoi. J'embrasse ce truc et c'était une super tournée, par contre. Et c'était hyper bien.
Combien de dates
Beaucoup, je me souviens plus, mais la tournée a bien marché. Hein. L'album a pas marché, mais la tournée s'est bien passée. Donc, j'ai fait ça. Mais à la fin de la tournée, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau, t'as plus de contrat. Tu vois, et comment régénérer derrière de l'énergie et de l'envie en face pour aller voir des labels quand tu viens de sortir un album qui a moins marché.
Surtout dont t'es un peu moins fier, d'après ce que je comprends.
J'étais un peu moins fier, il y a quand même des bonnes choses dessus, mais je l'assumais moins, quoi. Comment tu veux convaincre, en fait, parce que là, à un moment je tombais dans le truc où il faut que je trouve un nouveau contrat, un nouveau label. Tu vas avoir un label, on dit ah ouais, mais est-ce que t'as un réalisateur, un producer? Non.
J'attends ça de vous.
J'attends ça de vous. Nous, tu peux pas attendre ça de nous. Ok. Bon. Et donc après, faut aller voir un producteur. Et tu vas avoir produit ça, tu vas dire, est-ce que t'as un label pour me payer?
Ah oui, d'accord. Tu vois,
et quand c'est pas ton pote, tu peux pas bosser gratos en attendant. Donc je me suis retrouvé dans cette espèce de faille spatio-temporelle là, où j'avais pas de label pour trouver un réalisateur et pas de réal pour trouver un label, quoi.
Ni l'œuf ni la poule, quoi.
Exactement.
Ouais.
Et en plus, j'étais nul pour faire mes propres démos, tout ça. Et là, je m'y suis vraiment collé. Je me suis dit, allez, ok. J'appelle un pote qui était mon batteur, et qui est toujours mon batteur d'ailleurs, Wendy. Et je lui dis, vas-y, montre-moi comment ça marche à Ableton et tout. Il m'a montré. Bon, je suis toujours pas excellent sur Ableton, mais assez pour pouvoir faire mes démos moi-même et tout. Mmh. Voilà. Et ça m'a pris du temps, tout ça. Et je me suis formé tout seul à apprendre les trucs, les rudiments, quoi, de tout ça.
Et c'est ça, c'était une partie qui, avant, quand tu avais du coup une équipe, un entourage qui s'occupait de ça, tu participais pas du tout à...
Bah, je faisais un peu des démos, j'avais un Pro Tools que j'utilisais, mais comme un magnéto, tu vois.
Ouais.
Enfin, mais vraiment, je savais pas tous les trucs que je sais maintenant, tous les raccourcis que tu peux faire, comment tu peux dupliquer des pistes, enfin, tu sais, tous les faire un bus, faire un machin. Enfin, tu vois, ça, je savais pas. Et maintenant, je l'ai un peu appris, quoi.
Et avec le recul, tu te dis que si t'avais su ça au tout début, peut-être que même ton son aurait été différent, ou...
Bah oui, mais
j'ai passé plus d'idées, plus de...
Voilà, mais c'est peut-être mon erreur, hein, c'est d'avoir peut-être trop compté sur les autres dans un... Enfin, en tout cas, m'être content.
Ça a été fructueux pour le premier album.
C'était fructueux. Mais c'est-à-dire que c'est pas que je me suis reposé sur les autres, c'est-à-dire que je croyais à la collaboration et je me disais, bah non, mais moi, mon énergie, je la mets dans écrire et des morceaux. Et puis, bah, le reste, j'ai un entourage pour ça, et puis je croyais à la synergie de ça. Et donc, mais le problème, c'est qu'une fois que ça s'est perdu, bah, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau. Et donc, j'ai dû réapprendre ça tout seul. Et puis, sauf que ben, après, j'ai essayé d'aller voir. Donc, je me suis dit, bon, il faut du son. Donc, j'ai essayé d'approcher des réals. Mais pour trouver le bon interlocuteur en face et sûr de te comprendre, c'était pas évident. Et en plus, je l'ai payé de ma poche. Donc, c'était un peu compliqué, quoi. Et...
Ce que je te propose, c'est juste avant de passer à cette troisième partie, on va parler justement de ce nouvel album et peut-être un peu du processus de création, etc. Parce qu'on n'a pas écouté un seul extrait de Echo, qui est donc le deuxième album. Il y a un ou deux morceaux que tu apprécies particulièrement quand même sur cet album.
Sur Echo
Un ou deux, ou trois ou quatre. Hein,
ouais, qu'on peut nous écouter. C'est dans cette optique-là.
Je trouve qu'un des plus réussis, c'est le morceau qui s'appelle Echo, d'ailleurs.
Eh ben, on s'écoute ça.
C'est plus du post-punk là.
Quelle réponse tu pourrais apporter?
C'est post-punk ambiant, quoi.
Ok. C'est marrant que ça.
Et après,
pas
il part le morceau
que...
là, on l'a pas écouté. Il est long.
Tu veux qu'on avance un tout petit peu?
Regarde, vas-y, montre-lui la fin. Montre-lui.
Je merde.
Ok.
Écoute sa voix.
ça passe en radio tout le temps, ça, des trucs comme ça. What happened?
Je sais pas, hein, des fois tu sais pas. Hein, c'est... Oui, en plus, y a le single Focus Track, là, qu'on a... c'était David Palmer. Moi, que je joue encore sur scène et je trouve qu'il est qu'un
cool, ce morceau,
excellent ouais. morceau. Ouais. Je sais pas, ça. C'est... Bon, il a, en radio, il a trouvé un peu sa place, mais.
Là où à la limite, bon alors je m'improvise critique musicale, ce que j'aime, ce que je fais pas souvent d'ailleurs, oui. je sais pas ce que je préfère. Non, c'est dur, en général pas trop. Mais il y a peut-être un, je pense que pris individuellement, il y a plein de titres réussis. C'est peut-être l'ensemble
oui,
qui fonctionne pas complètement,
oui,
avec peut-être des morceaux un peu plus anecdotiques que d'autres.
Ouais.
Et peut-être qu'on comprend pas trop où tu nous emmènes non plus.
Ouais, ouais, mais je pense. Mais parce que moi,
je sais même, savais pas.
Moi, je savais pas où j'allais. Et non, en plus, c'était une période assez sombre hein, parce que c'était en plein pendant le Bataclan et tout ça. Et moi, je me rappelle, j'étais en studio à ce moment-là et c'était. Moi, j'étais juste à côté d'un, pas du Bataclan, mais de. Rue de la Fontaine au Roi.
Ah oui, d'accord, la belle équipe, le carillon.
Non, c'était le. Ah, c'était une pizzeria, je crois.
Casa Nostra ou
Cosa. Oui, je crois, c'est ça. Moi, je faisais un DJ set juste à 20 mètres, enfin, donc je me rappelle très bien de cette soirée. Et ça m'a beaucoup affecté ce. J'en ai pas beaucoup parlé de ce truc-là, mais parce que c'était une soirée très dure pour moi. Et puis il a fallu continuer l'album dans ce contexte-là. Ah, c'est vrai, rien d'en parler, ça me. Ouais. J'aime pas. Et mais.
Ouais, l'état d'esprit était pas. Était
non,
pas au top, quoi.
C'était pas top. Et moi, j'étais. J'étais pas bien. Donc, il y avait tout le contexte déjà du business, machin, plus ça.
Pff, ça, faisait
c'était beau, ça faisait trop, quoi. Ouais.
Bon, on a évoqué David Palmer avant de passer à la troisième partie. On se met un extrait.
Ouais.
Allez.
David Palmer comme non pas le président dans 24
non ah, tu sais que je l'ai appris quand je l'ai... Et ouais et je le savais même pas qu'il savait
c'est vrai
ouais. Et je trouvais que le nom était cool et j'ai en même temps mais évidemment qu'il y avait forcément une série qui avait déjà pensé à ce nom.
Il ressemble à Pierre Clémenti, marche comme une panthère noire, se déplace comme au ralenti puis s'écroule sur un accoudoir. Dans la lumière bleutée du soir, il te parle et te sourit à la manière d'une superstar. David Palmer, David Palmer, David Palmer, David Palmer, David Palmer.
Il n'y a personne qui t'a dit, mec, c'est le nom du président dans 24 heures chrono. C'est incroyable.
Alors, en 2016, ouais, si c'était déjà sorti.
Largement.
Ouais. Ouais, ouais, je sais pas. Non, je sais pas. C'est pas grave. Mais récemment, parce qu'au début, je parle de Pierre Clémenti, donc un acteur cinéma underground français, quoi. Et il y a pas longtemps, j'ai eu un message de son fils, Balthazar.
Oh, rigolo.
Qui m'a dit, ah, je viens de découvrir, vous avez fait une chanson en hommage à mon père et tout. Bravo, merci. C'est marrant, enfin pour l'anecdote.
Très bien. Tu parlais juste tout à l'heure de critique musicale, etc.
Ouais.
Tu te moquais de moi quand je disais que je m'improvise rarement critique musicale.
Oui,
mais, je précise que c'est intéressant.
Ouais.
Globalement, les choix un peu qu'on fait dans cette émission pour recevoir les gens, je reçois que des gens dont je trouve que leur musique est cool. C'est pas forcément toujours à chaque fois ce que je préfère, mais presque plus, c'est que je trouve que c'est des gens intéressants. Tu vois, je peux être un peu moins sensible à la musique. On reçoit pas des gens dont je considère que la musique est pourrie, tu vois. Mais par contre.
C'est oui.
J'ai eu peur.
Mais
je me sens mieux là parce que.
Non, mais je trouve que.
J'étais pas sûr.
Parce que c'est un peu comme. Les gens qui parlent le mieux de musique sont pas forcément ceux qui font la musique la plus intéressante. Parfois, inversement, des gens peuvent faire la musique incroyable et ce sera pas des bons clients dans une émission ou pour discuter, tu vois, ou pour transmettre quelque chose, une passion, etc. Donc c'est, je trouve qu'il y a pas vraiment de règle absolue, hormis.
Aucune règle.
C'est une personne intéressante, sa musique l'est plutôt aussi. Et après, il y a les goûts et tout, bien sûr, mais tu vois, c'est surtout ça.
Juste globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on reçoit des artistes ici, c'est qu'on aime bien ce qu'ils font.
Ouais, oui.
Bon,
voilà.
Globalement, c'est clair.
Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans cette émission, vous savez pourquoi. Pour l'instant.
Bon, écoute, Mathieu est rassuré. On peut passer à la troisième partie. Qui est donc cette période pour toi qui a, je sais pas si le terme est trop fort, mais une forme de renouveau avec ce nouvel album, puisque c'est une nouvelle manière de travailler, un nouvel entourage, ce qui n'est pas négligeable. Et puis on va parler quand même un peu de l'aventure Serpent aussi, parce qu'en fait elle s'est intercalée entre ces deux albums.
Donc là on est 8 ans plus tard quand même.
Et on est 8 ans plus tard, c'est ouf quand même. Ouais, on est en février 2024, ellipse. Effectivement. Ouais. Bon, entre temps, t'as pas chômé parce que t'es retourné un peu. Je t'avoue que j'ai pas trouvé les détails, mais théâtre, cinéma, j'ai vu. Qu'est-ce que t'as fait pendant cette période?
Bah, j'ai joué dans une pièce qui s'appelle Paranoid Paul, de Simon Diard, mise en scène par Luc Cerutti. Et puis, et donc, ça, c'était vraiment une super. Ça m'a tenu occupé pendant une bonne année avec une super équipe de jeunes comédiens, comédiennes. C'était vraiment génial aussi de bosser avec des gens plus jeunes que moi. Et c'était aussi le cas dans Serpent, qui est un groupe qu'on a monté avec des mecs qui avaient 10 voire 15 ans de moins que moi, quoi. Et j'avais peut-être besoin aussi de retrouver un peu d'une énergie de jeunesse, quoi. Et ces deux projets-là ont été vraiment salvateurs pour ça, quoi. Et un peu de cinéma aussi avec Nine Antico, qui est plutôt une autrice de bande dessinée, mais qui a fait son premier long, qui s'appelle Playlist, et dans lequel je joue un auteur de bande dessinée insupportable. et super expérience aussi, le cinéma, donc revenir au métier d'acteur. Après avec une série avec Ovidie, puis un peu de j'ai aussi fait un peu de réal, bizarrement co-réal, quoi, on va dire, avec pour un artiste qui s'appelle Hildebrand, qui est un bon ami à moi, et un peu d'écriture pour d'autres gens, pour Isia, mais tout ça, en fait, j'avais besoin de me réapproprier moi-même, en fait. J'étais un peu, je m'étais senti même dépossédé de moi,
Il y avait même l'idée de break, entre guillemets.
Ouais, de break. À un moment, je savais même pas si j'allais refaire un album de Lescope. Parce que je me disais, ça se trouve, Lescope, c'était un truc qui appartenait à cette époque-là, à ce moment-là, entre 2012 et 2016, quoi. C'était moi, Johnny Hostile, Gaël Etienne, Jenny Beth, tout ça. Je me disais, peut-être que c'était un truc de, voilà, une synergie comme ça, un alignement de planètes.
T'aurais pu à retrouver le...
Oui, à un moment je me suis dit peut-être, mais c'est pour ça aussi que j'ai fait un autre groupe, et me dire, je vais peut-être voir ce que ça fait de faire des trucs avec d'autres gens. Et en fait, en faisant un truc avec d'autres gens, je me suis rendu compte que non, j'avais plein de trucs à raconter moi, et que même en étant un cinquième d'un groupe, j'avais plein d'idées, et je me suis dit, mais en fait ça, voilà, j'ai toujours continué d'écrire des morceaux. Et donc je faisais mes morceaux sur mon ordi, puis à un moment je me suis dit non, mais en fait voilà, et puis j'ai commencé un peu plus à les faire écouter. J'avais fait des essais avec des réals qui étaient des super des gens très talentueux, mais ça cliquait pas. C'est pas de leur faute, hein, c'est ni de la mienne, mais c'est
des fois, il y avait pas d'alchimie,
voilà, ça fonctionnait pas. Et je me disais, oui, bah c'est bien, mais c'est pas, j'avais pas le truc qui me fait me dire, parce que moi à chaque fois que j'ai sorti quelque chose, je me suis toujours dit, ça je suis prêt à le défendre jusqu'au bout, quoi. Et je sentais pas cette énergie là donc je me suis dit, tant que j'ai pas ça, ça sert à rien. Et en fait, bon, quand j'ai changé de management, donc je bosse avec un manager qui s'appelle Chet, que les gens connaissent un peu dans le métier, et ça a été assez déterminant, le choix de changer aussi, de moi, de faire ce move là aussi, de changer.
Alors, pour qu'on comprenne bien, parce qu'à un moment on avait évoqué, tu sais, la recherche d'un label, le manager c'est encore autre chose.
Ouais, mais c'est, justement, ouais. c'est, j'allais faire le pourquoi je parle de ça. C'est parce que Chet m'a dit, il faut que tu reviennes à ce que tu sais faire et à ce que tu fais toi, parce que c'est ça que les gens aiment. Et quand il me dit, il faut que j'écoute tes démos, et il écoute mes démos, il me dit, en fait moi j'entends le son Lescope dans tes démos qui étaient faites, moi mes démos, tu sais que tu voulais en parler, c'est souvent une basse, une guitare, c'est très dépouillé.
À la maison, en mode home studio, t'as une carte son,
j'ai
une branche d'instruments,
un micro, souvent c'est à la basse, le squelette, quoi. Et voilà, il me dit, et là-dedans j'entends déjà des morceaux de Lescope, donc t'as un son à toi, et maintenant il faut te trouver le gars qui... Et avant qu'on aille voir les labels, faut qu'on ait le son. Donc on... et il me dit à un moment, ah, je pense que je vais te présenter ce mec, Thibaut Frisoni, que je connais bien, qui avait travaillé avec Bertrand Belin, qui est aussi manager par Jet. Et moi, j'aimais beaucoup son travail, que je me rappelais, je connaissais son travail. Et on s'est rencontrés et tout de suite, ça a marché. Là, tout de suite, ça a cliqué et on s'est compris. Et dès qu'on a commencé à faire du studio ensemble, je dis, ah bah voilà, là, j'ai mon sparring partner, quoi. Et là, c'est devenu évident. On a fait 5 morceaux. Après, on a démarché des labels et ça, tout s'est fait de manière très fluide.
Mais du coup, au niveau de la relation, est-ce que, puisque tu étais un petit peu échaudé par la relation artistique précédente, est-ce que cette fois-ci, tu t'es dit, attention, il faut quand même que je reste en contrôle du truc, ou tu vois, que je m'approprie vraiment l'objet artistique pour être sûr que si jamais ça se rebarre en sucette avec cette personne-là. Tu vois, est-ce que t'étais un petit peu, pas trauma, tu vois, mais en tout cas...
Je l'étais d'une certaine manière, mais justement, je pense que cette rencontre avec Thibaut Frisoni m'a permis de faire une bascule.
De passer outre le...
Oui, réapprendre à me faire confiance à moi et à faire confiance aux autres, et puis aussi de me pardonner à moi mes erreurs du passé. Peut-être aussi de pardonner aux gens qui j'ai...
Et cette rencontre-là, du coup, elle intervient quelle année à peu près
Là, c'était il y a 2 ans.
Okay. Donc,
on a commencé à travailler ensemble avec Thibaut.
Donc 6 ans après le deuxième album.
Voilà.
D'accord.
Et voilà. Et ça, je pense que, enfin, moi, voilà, souvent on demande ça aux artistes. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes, des jeunes artistes, quoi. Faut soigner à fond le son artistique et le son. Enfin, ça paraît con de le dire, mais c'est, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que, parce qu'après, il faut que t'aies un son où tu te dis, ça, putain, je préfère me planter avec ça que de réussir avec un truc que je vais moins aimer, quoi. Et parce que une fois que t'es ok avec le pire qui puisse t'arriver, c'est-à-dire que le pire qui puisse t'arriver, c'est que ça marche pas. Mais tu dis, ouais, mais j'aurais sorti cette putain de chanson. Et ça,
on
pour moi,
fier
et je l'assumerai de toute façon, quoi. Quant à ça, je pense que je parlais d'être le roi du monde tout à l'heure. Ouais. T'es le roi de ton propre univers.
Oui, il peut rien t'arriver, en fait.
Il peut rien t'arriver. De grave, tu vois. Bon, si, il peut t'arriver que t'arrives pas à payer ton loyer. Mais tu sais quoi, moi, à un moment, je vais pas te mentir, entre mon deuxième et mon troisième, à un moment, je savais pas comment payer mon loyer. J'ai fait des boulots, hein. Tu vois. tu vois, je peux le faire. Il y a pas de problème, en fait. Et je veux dire, si ma liberté, elle est à ce prix-là, et pourtant je suis quelqu'un, j'aime réussir, j'aime que ça marche.
Oui, t'es pas un artiste maudit.
Non,
je me complais dans mon malheur et ma désolation.
De toute façon, ils comprennent rien.
Oui, non, je suis pas, mais j'ai eu des périodes comme ça. j'ai de l'ambition, j'aime quand ça marche, j'aime gagner de l'argent avec ce que je fais, tu vois. Mais par contre, je veux pas que ce soit au détriment de ma liberté. J'appartiens à personne.
Pas de compromis, pas de...
Non, ouais. J'en ai jamais fait et j'en ferai jamais. Des compromis. Après, t'as des consensus des fois. Dans une équipe, dans un travail, ça c'est normal.
Oui, mais c'est des trucs que t'acceptes et, voilà. Et tu vas pas à reculons, quoi.
Mais pas de compromis artistique. J'ai jamais sorti un son en me disant... tu vois, parce que je parlais de mon deuxième album, où je disais que c'est pas l'album que j'aurais voulu faire moi. Mais quand même, je pense que c'est quand même un bon album, tu vois. Sinon, je l'aurais pas sorti. Et je pense que c'est quand même des bonnes chansons et que voilà, effectivement, comme tu disais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. À un moment, on peine à trouver le lien entre tout ça et on se perd un peu en route. Mais bon, globalement, j'ai pas sorti un truc honteux pour moi. Et donc voilà, ça, c'est important. Et il faut trouver sa zone de confort, parce que aujourd'hui beaucoup les gens parlent beaucoup de ça. Il faut sortir de sa zone de confort, mais enfin bon, c'est bien de la trouver aussi, la zone de confort, à un moment, avant d'en sortir, quoi.
Il y a le réalisateur Thibaut Frisoni dont tu parlais, il y a aussi le choix d'un mixeur, mine de rien, Ash Workman, qui a travaillé, moi je le connaissais pas, je t'avoue, hein, mais avec Metronomy, avec Christian the Queen, Baxter Dury, des gens comme ça. Parce que là en fait on parle du son, se faire son avoir un son, ça participe aussi de choisir un ingé son, tu vois, pour mixer qui...
Ah bah bien sûr, ouais, même si Thibaut avait déjà bien avancé le truc, il y avait vraiment quelque chose de de très avancé dans, déjà aux prises. Mais H, il a cette science de l'espace qui est imparable. Qu'ont souvent les Anglais, hein, mais lui particulièrement, qu'on entend dans Métronomie, Baxter, Christine, tous les disques qu'il a fait, tu sens ce truc-là, cette géométrie du son.
Dans quel. Alors, parce qu'il y a plein de morceaux que j'aime bien sur Rêve Parti. Donc, c'est le nom de l'album. Hein. Je sais pas si on l'avait cité en début d'émission. Je sais pas si depuis on l'a cité. Rêve Parti.
Rêve Parti. Attention.
Oui. Il y a jeu de
français,
mots.
En français, bien sûr.
C'est le rêve qui n'est plus là. Il est voilà, parti. Il est en parti. Effet.
Alors première question déjà, le 500 SL cabriolet.
Ça intéresse. Oh,
ça va pas les bagnoles.
Une raison.
Tu repères ça comme ça. Tu vois la pochette. Tu sais.
Ah frérot, ça se voit que c'est un 500 SL cab ça quand même.
Moi, j'y connais rien.
Par les gamos ou quoi.
Du 9-4 ou quoi.
Vas-y.
Elle est au clou hein, quand même là.
Ouais.
La ouais. Merco. Mais en fait, bah, c'est juste à côté de chez H Workman. Dans son studio, il est au fond d'une casse à Margate et sur le chemin et on faisait des photos avec un photographe et on était dans le coin et tout et puis il me dit et il voit cette bagnole magnifique.
Qui est incroyable.
Et sur une remorque, même la remorque a les pneus crevés, tu vois. Et toute pleine de poussière et tout. Et on s'est dit, putain, c'est trop bien. Et ça allait vachement mieux. Parce qu'en fait, moi, j'avais donné comme rêve, je sais pas si vous avez connu ça, parce que je sais pas.
Daz est vieux, hein.
Ouais, mais tu veux dire. Mais
je suis pas très jeune non plus.
Moi, je suis né en 78.
Pareil.
Mes parents. Était abonné à un magazine qui s'appelait Zoom, qui était un magazine de photos, parce que mes parents faisaient un peu de la photographie, et où il y avait des covers, quoi, ultra glamour, 80, mais un peu, voilà, ce minimal chic glamour dont je parlais tout à l'heure, façon American Gigolo, là, et il y avait vachement ça dans le. Et aussi, c'était les années post. Miami Vice, le film avec Al Pacino,
Scarface,
tout ça. Il y avait tout ce glamour Miami,
Florida,
qui avait imprégné mon imaginaire d'enfant. Et je dis, moi, je rêverais de faire une pochette d'album où il y a et des photos, voilà, où il y a un peu, on retrouve un peu ce glamour là. Et ce qui était drôle, c'est qu'on a réussi à la trouver. Il me fait, bah là, tu l'as, ton glamour. Et en même temps, elle est au clou, quoi. Et c'est quand même drôle parce que par rapport à l'époque qu'on vit maintenant, où on sait, on a compris que tous les rêves d'expansion et de luxe des années 80, ça va un peu dans le mur. Ouais. Et en même temps, moi, je suis quand même imprégné de ça. Moi, je suis comme toi.
Ouais,
je vois une belle bagnole, je suis content. Je suis là, waouh. Et d'ailleurs, dans une chanson, les garçons, je parle de GTO. Je parle de. Enfin, voilà, c'est les bagnoles. J'aime bien. Je suis assez matérialiste aussi comme garçon. J'aime bien les fringues, j'aime bien les.
Ah, t'es un garçon de ton époque en fait.
Ouais. Mais les gamins aussi maintenant, les rappeurs, ils ont aussi ce truc-là, quoi, tu vois.
Ouais. Certains rappeurs, en tout cas. Certains types de rappeurs. Même si.
Non, mais il y a la culture du chiffre et la culture du matériel. Dans l'hip-hop, il y a toujours eu ça, quoi.
Ouais, ça depuis le départ, ouais. Maintenant, est-ce que.
La compétition, notamment, etc.
Oui, après, voilà. Est-ce que voir un mec qui t'explique que son rêve de voiture sportive, c'est une Audi qui pèse 2 tonnes 5, c'est la vérité. Bon, je préfère le petit 500 SL Cab, là, tu vois.
C'est... Ça, c'est du goût personnel.
Ça reste allemand. Mais bon.
J'allais te demander comment tu veux qu'on peut s'écouter, je sais pas, 2-3 extraits, tu vois, issus de l'album. Est-ce qu'il y a des morceaux que tu as envie d'écouter en premier et puis d'autres après, tu vois? Est-ce que. Moi, je pense que. Parce que le premier single, si je dis pas de bêtises, ça a été Radio.
Oui.
Exotica, tu le joues pas mal aussi quand
même. Là, c'est un de ceux, c'est celui qui marche le mieux après les garçons.
Ok. Bon, moi, j'aime bien Effrayé par la nuit, personnellement. Ouais, mais enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie d'écouter en premier? C'est à toi qui décides d'abord.
Effrayé par la nuit, c'est une chanson qui est adressée à mon fils. C'est la séquence émotion.
Allons-y.
C'est parti.
Séquence émotion. Thank you.
c'est Laura Cahen qu'on entend. Et j'avance un tout petit peu parce que vous chantez tous les deux à un moment aussi, ouais. Ensemble, j'aime bien.
Car ton amour me suit et je le laisse faire. Je n'ai pas peur de lui, je n'ai plus qu'à le taire. Là-bas comme ici, aujourd'hui comme hier.
Il y a un truc qui m'a marqué. Je sais que tu as toujours eu une volonté un peu de minimalisme dans ta musique, mais là, c'est d'autant plus valable, en tout cas, j'ai ce sentiment sur cet album, de trucs, t'as trois machines électroniques, limite, et les morceaux sont composés comme ça. Il y a eu un vrai cap franchi à ce niveau-là, d'encore plus épurer.
Ouais, moi, moi, j'aime les lignes claires, moi, j'aime quand c'est... Mais je trouve qu'en fait, c'est presque de la provocation. Dans ma tête, c'est-à-dire que c'est un truc de...
c'est le punk en toi est toujours là.
Oui, mais je pense que parce qu'il y a un côté, c'est comme, enfin, moi je comme je te disais tout à l'heure, je crois très fort dans ce que je fais. Je suis pas l'artiste maudit comme tu disais aussi, tu vois, ou qui dit, ah non, mais en fait je suis cette espèce de posture d'humilité là. Pour moi, ça c'est un truc de bourgeois, ça m'a toujours gonflé. Moi je crois vraiment en ce que je fais et je pense que mes chansons, c'est ce que j'ai de plus cher après à ma famille, et j'y crois tellement que je me dis, je pense qu'elles sont bonnes, et le moins je mettrai d'arrangement et le plus ça s'entendra. C'est un peu ce que je me dis.
Genre le premier jet et le jet final, quoi.
Presque. Mais c'est un peu un statement. J'ai du mal à le dire. C'est de dire.
Ça va à l'envers de ce que tu faisais, puisqu'avant tu disais que tu faisais des démos et qu'après tu laissais les gens faire les arrangements.
Oui, mais là c'est quand même le cas, hein. C'est ça. Au départ il y a une démo que j'ai fait avec ma basse et tout ça.
Mais la version finale elle transfigure pas la démo en fait.
Si, dans le sens où elle est minimale aussi, tu vois. Et justement Thibaut Frisoni m'a dit ça, il m'a dit faut surtout pas qu'on perde ce truc-là de tes démos où tes chansons elles tiennent toutes seules. C'est, tu vois,
pas besoin de surproduire ou de,
oui, voilà,
de des béquilles dans tous les sens. Ouais.
Non, c'est ça.
Qui avait pu être, parce que je t'ai déjà entendu le dire, le cas avec d'autres réalisateurs que tu avais rencontrés avant.
Oui, qui voulaient trop en mettre. Et moi, je pense qu'il n'y a pas besoin, en fait. Et je pense que c'est quand quelque chose est beau, c'est encore plus beau. Quand c'est dénudé, quoi. Quand c'est à l'os. Enfin, je veux dire, tu vois, tu sais, c'est comme, je sais pas, la personne dont t'es amoureux. Tu sais, c'est comme les gens, tu sais, tu te dis, des fois, tu te dis, je sais pas, en fait, tu vas tomber amoureux d'une fille, par exemple, qui a une soirée, qui a une super belle robe, qui est hyper bien maquillée, tout ça. Puis après, tu vas la voir en t-shirt et sans maquillage, tu te dis, elle est encore plus belle, quoi. Enfin, pour moi, il y a quelque chose comme ça dans le fait de rester épuré dans les arrangements. Voilà.
Prochain album a cappella, du coup. Là.
Ça serait rigolo. Non, mais ça serait pas mal. À un moment, j'avais le fantasme de faire une chanson où il n'y ait que de la voix et du rythme, tu vois. Mais que tous les éléments musicaux soient faits par des voix, mais c'est pas évident.
Et t'as jamais été tenté de jouer sur vraiment la modification de voix, les pitchs, etc.
L'autotune.
L'autotune, des choses comme ça. C'est ce que je pense, tu sais, à faire un truc où il n'y a que de la voix. Moi, il y a un album dont je suis absolument fan, c'est de Bon Iver, 22 A Million, où il y a un morceau, par exemple, qui n'a que sa voix, mais qui est modifié, etc. Ça peut pas être un...
Peut-être un jour je ferai ça, mais c'est pas dans mes projets. Ouais. Mais oui, j'adore ce morceau d'ailleurs. Mais je... Non.
C'est Creek, je crois, le morceau.
Peut-être, je me souviens plus de son nom, mais je me rappelle l'avoir justement. C'est souvent les morceaux que te fait écouter le réal en studio. Tu vois ça, je trouve que c'est This is the real shit. Ah
bah, l'album est dingo. C'est un de mes albums préférés.
Bah oui, c'est super, c'est hyper beau. Non, mais moi j'aime bien les, parce qu'il y a aussi derrière ça et derrière ce que je dis et ce dont tu parles, c'est une idée de radicalité. Enfin, moi j'aime quand c'est radical les choses, et le minimalisme est une radicalité. C'est radical d'être minimal. Et en plus, moi je sais pas, j'y connais rien en harmonie, en machin, enfin tu vois, je suis pas un musicien vraiment, enfin je suis pas vrai, on en parlait tout à l'heure, tu vois, je suis une espèce de auteur, acteur qui fait de la musique, quoi. Et mais et donc
quand même trois albums.
Oui, mais non, mais ça n'empêche pas.
Que avec les scopes,
oui, trois albums solo. Ouais.
Non, mais ça n'empêche pas. Enfin, tu peux d'ailleurs, comme tu peux être être quelqu'un qui n'est pas.
Oh, je suis pas écrivain. J'ai écrit 4 bouquins.
mais c'est arrivé.
Ça fait 25 ans que je le fais. Bon.
Après, en vrai, pour de vrai, c'est quand tu comptes les bouquins de politique ou d'animateurs télé, comme ça. Il y a vraiment des mecs qui ont sorti 4 bouquins et qui n'ont pas écrivain.
Mais regarde, Céline était médecin.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, t'as plein d'exemples comme ça. Des acteurs.
Ouais, parce qu'ils ont une autre activité en parallèle. Quoi.
Oui, donc ouais. Toi, quand tu te présentes, si tu devais faire ton CV, en titre de CV, tu mettrais quoi alors? Tu mettrais acteur, comédien, avant musicien? C'est quoi le.
Je pense que, par la force des choses, je suis chanteur. Ouais. C'est quand même ce qui fait la colonne vertébrale de toutes mes activités, même si j'aime avoir plusieurs activités. Mais ce qui fait, et d'ailleurs c'est en faisant d'autres trucs dont on parlait tout à l'heure, du cinéma, du théâtre, c'est aussi là que je me suis rendu compte que ce qui faisait le dénominateur commun à tout ça, c'est le fait que j'étais chanteur voilà. Donc oui, je suis chanteur.
Ok.
Il y a un autre truc.
C'est bien de l'admettre.
Il y a un autre truc dans l'album, donc ce minimalisme que je trouve encore plus assumé. Et je trouve aussi, alors peut-être que j'ai dit une connerie, que j'ai pas prêté assez attention, j'en sais rien, mais qu'il y a plus de sonorités électroniques quand même. Ouais. Plus de synthé pure, plus d'arpégiateurs, tu vois, plus de trucs vraiment où. Et je pense aussi, tu sais, il y a une espèce de solo désaccordé à un moment. Attends, j'avais noté le. C'est sûr, tu peux voir.
Mm-hmm. Ouais.
Où tu vois, là, on est vraiment presque dans l'expérimentation électronique. Ouais. Attends, je le mets juste en fond pour qu'on ait une idée, parce que j'en parle là, comme ça, tac. Bon, déjà, la boîte à rythme, tu vois, là, elle est identifiable direct.
Ouais.
Une espèce de solo complètement détune. Et il y a eu une velléité, je trouve, quand même assez encore plus électronique sur cet album.
On va sur de la synthwave presque.
Ouais, c'est, bah, de toute façon, c'était une de nos rêves, ouais, la synthwave. Moi, j'aime aussi quand c'est un peu. Si j'étais un artiste, un plasticien, il y aurait une partie où je m'inspirerais un peu d'architecture minimale, et une partie où je m'inspirerais de d'art contemporain, tu vois, j'ai pas d'exemple comme ça, mais tu vois le côté ou même tu vois le fait de faire un peu ce qu'on peut appeler du noise ou de la texture, tu vois, les trucs, moi ça me plaît beaucoup. Tu vois, moi j'adore. Là, je rentre sur scène sur un morceau de Steve Reich, quoi, tu vois, de Six Marimbas de Steve Reich. J'aime vachement les trucs comme ça aussi. J'aime ce qui est répétitif. Et j'aime bien. Moi, je trouve que c'est l'équivalent en musique de l'art abstrait. Enfin, il y a un truc un peu. C'est que c'est une méthode et c'est un. Il y a une certaine mathématique dans le. J'ai du mal à expliquer, mais c'est des images que j'ai un peu en tête, mais.
Et en même temps, au service quand même d'un format pop, de manière générale.
Ouais.
Assumé d'ailleurs.
Mais c'est ça,
Mais ça, on se dit que c'est pas forcément le truc le plus naturel parce que.
Mais justement.
Ouais.
C'est ça, mon défi, ça a toujours été ça. C'était d'utiliser le langage de la musique underground, mais en faisant des chansons dans lesquelles je pense, en tout cas, une partie du grand public peut s'y retrouver. Moi, je suis pas élitiste. Enfin, je suis exigeant dans mes choix artistiques, mais moi, tu vois, tu parlais de Ruquier tout à l'heure. Enfin, tu vois, dès que j'ai eu accès à des médias grand public, j'y suis toujours allé. La PQR, les France 3, les machins. Enfin, je veux vraiment être dans un truc. Je veux pas parler à une espèce de chosen few de gens. Qui ont tout compris au pourquoi du comment de la life là, et ça ne m'intéresse pas, mais pourtant j'aime l'exigence j'ai des refs qui peuvent être des refs d'un télo, mais moi j'en suis pas un, et je veux pas m'adresser en tout cas pas uniquement à des gens comme ça.
Et tu penses, ça m'évoque ça, que le côté chanter en français, une certaine manière de scander, de phraser, une écriture relativement littéraire, etc., ça peut pas créer justement un peu une confusion.
Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est, je veux dire, tu vois, moi j'ai toujours trouvé ça nul, cette idée que, comme tu veux t'adresser à un grand public, alors faut leur parler comme à des débiles, quoi. Enfin, je trouve ça.
Non, pas forcément, mais tu sais.
Enfin, je dis pas à toi, hein, quand je dis.
J'espère. C'est une remarque qu'on avait discuté avec Flavien Berger aussi, de cette idée que. il y a des codes esthétiques parfois où tu sais quand tu vas l'écouter tout de suite tu vas dire ah ok je vois peut-être une forme de sociologie quand même derrière les auditeurs du truc tu vois.
Oui oui oui. Mais évidemment, mais attends, en plus, enfin, je pense qu'une partie de mon public, c'est aussi des gens, voilà, je sais pas, qui lisent Télérama ou, enfin, tu vois, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi des gens, et là je suis en tournée, je le constate tous les jours, qui sont pas du tout comme ça, et qui sont des gens qui sont fans de aussi de variété, de, parce qu'il y a ce côté chant français qui plaît aux gens aussi. Et voilà, et moi je pense qu'il faut donner le maximum et il faut essayer c'est important de donner aux gens, à tout le monde, accessible à tous, le contenu le plus exigeant possible.
On s'écoute un autre extrait.
Allez.
Exotica ?
Exotica.
Et d'ailleurs, j'ai vu en live que t'es accompagné par Camille Freelax, mais je sais pas si elle est sur l'album, par contre, ou...
Oui, non, pas sur l'album.
Non, pas sur l'album, mais,
okay. Ouais, non.
Très, très forte.
Ouais, tu la connais ?
Je la connais pas personnellement, mais je vois bien ce qu'elle fait sur les réseaux, suivez-la.
Ouais. Oui, oui.
Elle est très très forte.
Incroyable.
Ouais, elle est exotique.
En moi, un torrent noir m'emmène dans tes bras, comme un fleuve qui coule sur une âme en Guyana. Tropical est le son de ta voix. Exotica, comme une tempête qui fait rage en moi. Exotica, qu'est-ce que je vais devenir si tu t'en vas?
Il n'y a plus rien.
Il
y a la basse qui, quand même, fait le côté instrument acoustique, même s'il y avait pas mal d'effets dessus. Mais, okay, ouais. Ouais. Mais t'as raison, on voit vraiment la nature électronique de l'album.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
C'est un truc d'ailleurs que t'as pu tirer un peu de Serpent aussi, parce que là, en fait, la basse me fait penser à ce que vous pouvez faire avec Serpent.
Ouais, ouais.
Je sais pas si c'est du phaser, un truc comme ça qu'il y a sur la basse.
C'est un chorus, je crois.
C'est un chorus, simplement. Ouais. Mais ça peut me faire penser à ces sonorités-là un peu.
Ouais, ouais, ouais. Complètement. Hein. Bah, oui, c'est aussi un peu. Il y a une petite option funky dedans, quoi. Ouais. Enfin, légère, quoi. Ouais. Mais oui, comme il y a eu dans Serpent. Oui, ce côté funk froid. Enfin, nous, on appelait ça post-funk.
Ah, ils sont terribles. Avec les postes, les cols, les machins. Tu penses que d'ailleurs, cette respiration un peu musicale, à nouveau de groupe avec Serpent, on va s'écouter un extrait de Serpent, elle t'a remotivé un peu, elle t'a redonné envie pour faire ce troisième album, pour revenir à l'Escope, pour...
Ah ouais, ouais, complètement.
Ouais.
Complètement. Serpent, ça m'a reconstruit. Vraiment, et je le dis parce que j'espère qu'ils écouteront cette interview. Je leur dois beaucoup à l'équipe Serpent, parce que j'ai vraiment réappris à prendre du fun, à bosser tout en se marrant. Et en plus, on avait, pour le coup, c'était un projet sans ambition, une ambition qui était d'ordre artistique, en fait, tout simplement. Et j'ai bossé avec des musiciens vraiment géniaux, quoi. Et j'ai tellement appris avec eux, leur approche de leur instrument, leur exigence, leur façon de diguer le son jusqu'à ce qu'il soit parfait, de leur métronomie et leur... c'est tous des musiciens. Adrian Edlin, Quentin Rocha, Martin Huslef, Wendy Killman, enfin, c'est vraiment des... Enfin, pour moi, ce sont parmi les meilleurs musiciens actuellement en France. Et de retrouver du fun comme ça et d'arriver à allier ce fun avec cette exigence, je me suis dit, ah putain, mais c'est possible en fait. Et on n'est pas obligé de s'aboyer dessus pour faire du bon son, quoi.
Bon, y a deux morceaux que j'aime bien de Serpent qui sont Love Hate et puis Dysfunction.
Yes.
Bah, écoute ça.
Vas-y.
Allez.
Mmh.
Ça tue. C'est trop bien. Ça, c'est sur l'album Time, enfin sur l'EP pardon, Time for Everything. C'était 2020, c'est ça hein?
Ouais, ouais.
Et un petit extrait de Dysfunction aussi, ouais. Qui lui est vraiment dans l'esprit. Ouais, je t'évoquais avant l'émission, Talking Heads, Devo, des trucs comme ça.
Ouais, ouais.
J'adore.
Dysfunction.
C'est un peu d'az.
Ouais, ouais, ça sonne un peu comme Prince aussi. Il y a des trucs.
Ouais, il y avait un truc comme ça. Ouais, ouais. Et tu chantes vachement différemment que sur les scopes.
Ouais. Bah, en fait, je sais pas pourquoi en anglais tu peux chanter beaucoup plus haut. J'ai jamais compris pourquoi. Il y a un truc. Oui, puis c'est plus scandé, c'est un peu plus. Oui, c'est vrai que c'est pas.
Oui, pour le coup, c'est vraiment deux salles, deux ambiances.
Ouais, complètement.
Ouais. Ouais, ouais,
complètement.
Et c'est marrant, du coup, il n'y a pas de. Ça croise pas un petit peu, tu ramènes un peu de serpent dans tes solos ou tu ramènes un peu de l'escope dans serpent
Forcément, mais peut-être sur des choses qu'il y a que moi qui vais l'entendre. Quoi. Mm. Mais, tu vois, tu parlais de la base d'Exotica,
ouais.
On n'est pas très loin, tu vois, de ce genre de truc. Tu vois, et. Mais. Ouais. Non, mais moi j'aime. J'aime quand ça groove. Enfin, tu vois, tu parles de funk. Moi, j'en écoutais pas mal. Et de Prince, tu vois. Ma meuf est une énorme fan de Prince. Donc, ouais, ouais. Mais j'aime. Et d'ailleurs, j'aime quand la musique groove. Et tu vois, que ce soit ça ou Blue Monday ou Prince, c'est des grooves différents, mais c'est du groove, quoi. Tu vois.
Ouais, je suis d'accord.
Et,
ce qu'on retrouve peut-être un peu moins sur les scopes, quand même.
Bah, non, moi je trouve que La Forêt.
C'est gros. Ouais, pourquoi pas.
Tu vois, la ligne de basse et la boîte à rythme, ça amène un groove qui est froid, mais qui est métronomique.
Qui est cold.
Qui est cold. mais c'est un groove quand même, quoi. Et justement, avec Thibaut, je pense que c'est le terme groove, c'est un des termes qu'on a le plus utilisé pendant la réalisation de l'album. On était, ah non, ça groove pas. Donc, tu vois, retarder un peu la caisse claire, avancer un peu le kick, enfin, tu sais, tout ça. Et c'est de l'orfèvrerie, quoi. C'est très ténu, hein. Mais on s'est beaucoup posé ces questions du groove. Tu sais, il y a une anecdote là, qui c'est qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps? Qui disait qu'ils avaient fait écouter Kraftwerk à des musiciens afro-américains et qui étaient persuadés que Kraftwerk c'était des
du funk
non que c'était des afro-américains aussi. Il disait mais parce que ces mecs ils disent, ça peut pas être des blancs qu'on fait ça parce qu'ils groovent quoi et il y a un groove froid, mais je trouvais ça étonnant et ça venait de je sais plus quel musicien afro-américain, mais qui était de voilà de.
En tout cas, quand on voit
quand
on voit dans la musique afro-américaine, que ce soit évidemment le P-funk, que ce soit Afrika Bambaataa, etc. Comment ils ont tous pris dans Kraftwerk et qu'ils ont bien réussi à le digérer, etc. C'est pas forcément délirant d'y voir un lien.
Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Comment c'était quoi le morceau d'Afrika Bambaataa? C'est Planet Rock.
Ouais, bah oui, grand classique, effectivement. Ouais. Mathieu, peut-être pour terminer, je ne sais pas si tu as des questions d'ailleurs.
Non.
Mais ouais.
Tout a été répondu.
Tout a été répondu. Ouais, parfait. Le cahier des charges est rempli.
Ouais, ouais.
Non, juste une petite question, alors qui peut d'ailleurs amener à nouveau sujet. Mais parce qu'on n'a pas énormément insisté sur le texte, sur ton processus d'écriture, etc. Et comme là, on parlait quand même du troisième album, c'est peut-être l'occasion. Les thématiques aussi, bien entendu. Je t'ai entendu.
Hein? La romance.
La romance, oui, c'est la vrai, romance. Ça, on en avait parlé de ça. Et puis, je t'ai entendu dire en interview, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, un truc du genre, je ne sais plus comment le dire, mais tu sais, j'écris pas pour me faire comprendre ou pour me trouver moi, mais plus pour mettre de la distance,
pour
des choses comme ça.
Pour tenir les gens à distance. Ouais.
Parle-nous un peu de ton rapport au texte. Est-ce qu'il est le même d'ailleurs sur cet album que sur les précédents?
Ouais, je pense qu'il y a... Y a... il y a toujours ce dénominateur commun sur les albums, c'est ce fil conducteur qui est mes textes et qui
ça c'est l'amour, enfin c'est le grand truc de ta vie, ça, le texte.
Ouais les mots, enfin moi j'aime les mots, j'aime
c'est les sonorités, c'est leur signification, c'est quoi,
bah c'est tout, je sais pas, je trouve c'est magique un mot, en fait tu sais il y a j'en parle pas mal en ce moment sur scène, quand je chante le morceau Les Garçons. C'est un morceau que j'ai écrit avec amour. après avoir lu, il y a une nouvelle de Pasolini qui s'appelle Après dîner nostalgique, que j'ai trouvé, qui m'a vraiment bouleversé. Où c'est un jeune gars, tu vois, un gars de la campagne qui vient de terminer sa journée de boulot, tu supposes qu'il bosse un peu sur des chantiers, enfin c'est un ouvrier quoi. Et il s'est fait beau le soir, il va sortir et il attend ses copains. Et quand il voit ses copains, il voit des filles passer, il les trouve super belles et ça lui fait un espèce d'émoi, un espèce de vertige comme ça. Il a des pensées douces, il a des pensées qui l'emmène vers le haut. Enfin, son cœur s'ouvre un peu. Mais il se referme aussitôt parce que il ne sait pas comment verbaliser, même dans un langage mental, la douceur de ce qu'il ressent. Et comme il ne sait pas le formuler, se le formuler à lui-même, il n'y a pas accès en fait à ses pensées. Et c'est ça qui me fascine dans les mots. C'est qu'un mot bien défini, bien s'exprimer, même intérieurement, ça te permet d'avoir accès à certaines émotions. Si tu ne peux pas les formuler, les verbaliser, mettre le mot dessus,
Tu passes à côté.
Tu passes à côté d'un truc. Et c'est pour ça que je trouve que les mots sont importants. Et que souvent, c'est des. Tu sais, ça nous est tous arrivé. Tu écoutes un discours, ça peut être quelqu'un d'engagé, ça peut être quelqu'un de. Ça peut être un discours politique, ça peut être un discours poétique, ça peut être un discours amoureux. Ça peut, tu sais, on te dit ah, mais oui, c'est exactement ça que je voulais. Que je savais même pas que je pensais. Mmh. Et les mots servent à ça. C'est pour ça que les mots, ils sont magiques. Élucider cette équation-là, ça a toujours été mon but et ce qui me porte. Et c'est pour ça que j'écris. Parce que pour moi, c'est comme résoudre une équation magique. Rimbaud disait, j'expliquais mes sophismes magiques par l'hallucination des mots. Moi, je trouve cette phrase magnifique, quoi. Des sophismes magiques. Un sophisme, c'est un raisonnement fallacieux, magique, par l'hallucination des mots. C'est-à-dire qu'en utilisant des mots complètement dingues, tu peux inventer des espèces de sorts, de formules magiques. Comme ça,
mais qui reste quand même des arguments fallacieux.
Mais tu peux. Ah, le mec terre à terre.
Mais ça peut être beau, mais ça peut être beau d'être fallacieux.
Et
ça,
oui, moi je suis d'accord. Je suis sur Twitter tous les jours, donc.
Non, mais c'était de ça, tu vois. On parlait d'Assassin tout à l'heure, la formule secrète de Rocking Squad, quoi. C'était. Tu vois, il y avait ce truc aussi dans le rap et tout. Enfin, t'as la culture du mot, quoi.
Bien sûr.
Et moi, c'est ça qui me touche. J'ai été peut-être un peu long là, mais
c'est très intéressant.
Mais c'est ça qui me fascine dans les mots, et c'est pour ça que je lis, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que j'aime entendre les mots des autres aussi.
Est-ce que le mot parfois peut prendre le dessus dans le processus d'écriture, le mot pour le mot presque, ou est-ce
ah non, mais
comme
ça,
la rime pour la rime pour les rappeurs.
Ouais.
Je sais pas.
Non, mais c'est le non. Justement, il faut essayer de s'empêcher de ça. Enfin, pour moi,
dans le sens qui prime.
Non, c'est la. Pour moi, ce qui prime, c'est la beauté de l'idée que.
C'est l'émotion qui est amenée par.
Oui, c'est ça. C'est le sort émotionnel que le mot va ajouter à la chanson. C'est ça qui m'intéresse.
Oui, mais du coup, tu ferais rimer que les filles sont belles, belles Mirabelles, comme les sages-poètes de la rue. Tu te dis, c'est quand même un peu éclaté comme.
Non, mais. Mais tu peux dire. Regarde.
Belle Mirabelle, quand même.
Mais c'est aussi. Des fois, parce que aussi, le truc, c'est qu'il y a un bon mot. Un bon texte, c'est aussi un bon chanteur. Ou une bonne chanteuse. Et ça.
Comment il a incarné, comment il a fait. La façon dont le chanteur déclame, ça. augmente la qualité du texte.
Bien sûr, ça je peux t'en parler parce que j'écris pour d'autres gens,
ouais.
Et qu'il y a des trucs où tu te rends compte, des fois j'écris des trucs, je me dis putain mais c'est génial ce que je viens d'écrire, je suis un génie en fait. Et tu le fais chanter par quelqu'un d'autre et ça marche pas.
Ouais.
Parce que il ou elle n'a pas la voix pour le faire.
Mais à l'inverse.
Et à l'inverse aussi. Ouais. Tu vois, moi si je me mets à chanter, je sais pas, il y a des chansons que j'adore, par exemple, je sais pas, moi il y a des chansons... De Balavoine que je kiffe, tu vois. Si moi je les chante, je pense que ce sera nul.
Ouais.
Tu vois, et parce que ça va pas résonner. Je suis pas le bon chanteur pour ce texte-là. Et voilà, je pense que des bonnes paroles, c'est aussi des bons interprètes.
Ouais. Et au-delà de l'interprétation, il y a aussi l'écho que ça a avec sa vie personnelle. Ça joue ça aussi, tu penses?
Bah, c'est ce qu'on appelle la sincérité. Je pense que c'est ça, être sincère. C'est qu'il faut que c'est un écho. Avec ce que tu es, toi. Et il faut. Et d'ailleurs, la tentation de tricher, elle est importante quand tu commences à écrire. Et quand j'ai commencé à écrire, je me cherchais un peu, tu vois. J'ai essayé d'être Rimbaud, d'être Jim Morrison, d'être Johnny Rotten. Et en fait, c'est compliqué d'arriver à trouver ton langage à toi, tes mots à toi. Et c'est une quête de tous les instants. Et encore maintenant, tu vois, j'écris des chansons. Des fois, je me dis, bon, non, mais ça, si je me dis ça, je l'ai déjà écrit, ou alors ça, quelqu'un d'autre l'a déjà écrit, ou ça, c'est pas à la hauteur des ambitions que je mets dans ce que j'écris, quoi.
Donc, il y a beaucoup de déchets, du coup, dans ton écriture?
Ouais, 90%.
Ah ouais?
Ouais.
Ok.
Ouais, ouais. Mais c'est bien, les déchets. Il faut produire, en fait. C'est une discipline.
Mais est-ce que... Parce qu'on parle de déchets, mais est-ce que tu recycles? Est-ce que le déchet d'aujourd'hui peut être un truc dans 3 ans?
Tu gardes tout en note, des trucs
mais
comme ça.
Sur mon dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Le Jeu. Cette chanson, je l'ai écrite il y a 10 ans.
D'accord.
Et
il y a
10
ans, ça n'avait pas fait le cut, en fait.
Ah non, ça faisait partie des chansons, justement, où on n'était pas d'accord avec mon ancien label.
Ouais. D'accord.
Et je m'étais dit, non, mais celle-là, moi, j'y tiens. Et je l'ai toujours gardée en tête. Je me suis dit, un jour, je la sortirai. Et j'ai fini par la sortir, tu vois. On parlait de Walk on the Wild Side, Bowie, il l'avait pas écrite pour lui, hein, au départ. Il l'avait écrite pour une comédie musicale qui s'est jamais faite, un projet qui s'est jamais fait, et avec des paroles différentes. Et en fait, il a remplacé. Il parlait d'autre chose, je pense, au départ, et il a remplacé par les personnages de la Factory d'Andy Warhol, et il a fait sa propre chanson. Parce qu'il le dit lui-même, il le disait lui-même qu'il aimait pas gâcher des trucs qui, selon lui, étaient beaux.
Voilà, donc c'est pas du déchet.
C'est pas du déchet.
C'est du pour plus tard.
Du recyclage, quoi.
Mais c'est vrai, regarde,
c'est de bague intellectuelle.
Je reviens encore à l'épisode avec Flavien Berger où il disait, enfin, il avait tout de suite besoin de faire un contre-album, tu sais, appelé premier album, ouais. Parce que ça crée tellement de bouillonnement qu'il y a des trucs encore intéressants à exploiter, etc.
Ouais. Mais je comprends ça. Ouais. Et...
Les phases B, les.
Ouais. D'ailleurs, tu continues. Là, par exemple, je suis dans une phase où ce que j'écris, c'est comme si j'écrivais des chansons qui pourrait être encore sur mon...
C'est de la sortie, hein.
Ouais, tu vois. Mais ouais. Je me dis, bah non, mais en fait, c'est des chansons qui... Ça pourrait être sur Rêve Parti, mais en fait, là, il faut déjà que je vois ailleurs, quoi.
Après, tu me diras, il y a des gens, je pense notamment dans le rap américain, enfin, je pense à Kanye en particulier, tu sais, où l'album, il est sorti, il est sur les plateformes, et puis deux jours après, il n'y a plus le même tracklist.
Je trouve ça génial, et en fait, je crois...
Très bizarre.
J'avais évoqué ce truc-là il y a quelques années, en disant, pour moi, c'était le turfu. Le fait que de la même manière
l'album
que
mouvant.
Ouais, le fait que de la même manière que un jeu vidéo quand il sortait avant, tu l'achetais avec ta cartouche et t'étais niqué, tu vois. Et que là les mecs ils peuvent te sortir un jeu archi buggé et puis le débugger après la sortie, je me dis putain, le mec il sort un album, il te fait une V1.1, une V1.2 en changeant les drums, en changeant le découpage du truc, en même changeant le tracklist. Je trouve ça trop bien en fait d'avoir des albums un peu comme des softwares.
Moi, je pense que
change un peu
ce que tu veux
choses,
dire, hein. Effectivement, c'est turfu mais en même temps, c'est bien aussi qu'à un moment les choses
on dit stop, ouais. Ouais. Je suis d'accord aussi.
Il y a un moment,
c'est essentiel dans le processus créatif.
Tu sais, il y avait cette anecdote qu'on m'avait racontée sur Miles Davis, où à un moment il était en studio, je sais plus si c'est quel album il faisait, je sais plus si c'est Beaches Brew, enfin bref, et il disait il était en galère et il n'y arrivait pas. Et t'as la maison de disques qui passe, ou son manager, ou je sais plus, enfin, qui passe et qui lui dit, je suis en galère, je sais pas, je tourne en rond, j'arrive pas. Et puis, il lui dit, mais bah écoute, Miles, je sais pas, dis-moi de quoi t'as besoin. Et Miles Davis, il lui répond, j'ai besoin d'une deadline, quoi. J'ai besoin qu'à un moment tu me dises, c'est stop, et c'est ce jour-là, quoi. Et ça va m'aider à terminer le process, quoi.
Ouais, non, c'est vrai aussi. Ouais.
Mais c'est,
les deux peuvent fonctionner.
Mais là où ce dont tu parles est intéressant, c'est, ça peut être intéressant si c'est une démarche, c'est spécifique. Je pense oui, pas genre, que ce soit généralisé.
Plus tard, tu dis allez, je change les drums.
Ou genre, je sors un album évolutif, c'est sa nature. Il y en a d'autres qui sont arrêtés, mais lui, on va voir ce qu'il devient au fil du temps.
Oui.
Ça, à la limite, ça peut être intéressant, tu vois.
Exactement. Et puis des fois, t'es pas le meilleur juge aussi de. Tu vois. Et puis regarde, il y a des chansons qui deviennent des tubes, on le voit tous les jours avec TikTok. T'as des chansons qui deviennent des tubes 10 ans après, ou qui redeviennent des tubes. Tu vois, Sophie Ellis Bextor, là, qui ouais. C'est pas par TikTok, mais c'est pas par un film. Mais tu vois,
Murder on the Dance.
Ouais,
ça revient.
Ah ouais, il est revenu à fond il y a quelques mois.
Fou, là.
Ah ouais, ok.
Ouais, ouais.
C'est le seul morceau d'elle que je connais, donc
moi aussi.
C'est ça, ou Kate Bush avec.
Ah oui, bah bien sûr.
Tu vois,
avec Running Down the Hill, Running Up the Hill, Running
Up the Hill. Bah, tu vois, donc en fait, il y avait aussi, tu sais, ce truc, j'ai dû entendre parler de ça, qu'il y avait une proposition, on parlait de Scarface, tu sais, il y avait, je sais plus qui, mais qui avait proposé de refaire une version pour Netflix avec une bande-son de gangsta rap.
Ok,
quel enfer.
Avec des morceaux de trap et tout ça.
quel enfer.
Parce que c'est devenu un film qui est devenu culte dans la culture du hip-hop, ce qui est très étrange d'ailleurs, mais on peut en parler, mais c'est assez étrange qu'un personnage aussi nul en affaires soit le héros de mecs qui ont la culture du chiffre. Ouais. Mais
ça, c'est le fait que Scarface ait été mal compris par l'intégralité du rap game, moi c'est que j'écrirai un livre dessus un jour parce que ça me terrifie à chaque
c'est,
fois.
C'est, mais, ouais, c'est pour ça qu'il est fascinant.
Ils ne comprennent rien.
Mais oui, mais bref. Et De Palma qui avait dit, mais jamais de la vie en fait. Justement, ça va complètement avec une esthétique, en fait,
Scarface
justement des années 80.
Quel enfer! Ah non, ça serait infernal.
Ça marcherait pas.
Ah non, ça marcherait pas.
Ben, je vous propose qu'on s'arrête sur cette idée de Scarface en rap.
Oh merde!
De toute façon, on avait le choix. C'est soit on s'arrêtait quand tu parlais du pouvoir des mots, ce qui était très beau, mais finalement, on a décidé de s'arrêter sur Scarface.
Scarface trap.
C'est le destin.
C'est ça aussi, être proche du peuple.
Absolument. Absolument. Merci beaucoup Mathieu.
Merci à vous deux.
C'était très cool. Intéressant comme discussion.
Super.
Tu sais qu'on a une tradition dans ce podcast, c'est de terminer avec les recommandations.
Oh.
Alors on ne t'a pas prévenu en amont, mais en fait je crois que j'aime bien un peu prendre au dépourvu les gens comme ça. Tu vois, c'est réellement ce qui leur vient. Tu vois, peut-être comme ça d'un coup. Ouais. Mais on peut commencer si tu veux. C'est juste un morceau qu'on fait découvrir à nos auditeurs qu'on adore ou qu'on a découvert récemment. Daz, t'as déjà une idée toi de ce que tu veux faire écouter ou pas?
Un album d'un groupe qui s'appelle 1999, Ride the Future.
Oh là, c'est compliqué, ok.
L'album s'appelle Hella, et après il y a des emojis. C'est 100% Génération Z. C'est deux mecs indonésiens, mais qui vivent en Californie.
Et le morceau s'appelle comment?
Alors le morceau s'appelle, il y en a plusieurs. Tout l'album, c'est une frappe, hein. C'est un mix entre des vieilles gloires et des nouveaux trucs. Le morceau, allez, on va s'écouter Cool Water for the Night. Mais il y a d'autres morceaux avec Rick Ross, avec Souls of Mischief, avec Bad Bad Not Good, avec tout à écouter dans cet album.
C'est trop bien.
Voilà. Il y a un autre morceau avec mon petit West Side Gun et Conway, son frère, de Griselda. Donc bon, voilà. C'est vraiment de la bonne musique.
Je vais aller écouter ça.
Ouais, c'est y avoir cool. Limite un côté G-Funk un peu dans
ouais,
le.
Ouais, mais c'est des Californiens.
Ouais, mais G-Funk versus MGMT.
C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça.
Ouais, complètement. Sur ce morceau-là, ouais. Après les autres, il y a plus de trucs à base de samples, un peu drumless et tout, comme moi j'aime bien, tu vois. Mais non, franchement.
Ce morceau très très bien. Ouais. T'as une idée toi de ce que tu veux me faire écouter? J'enchaîne, qu'est-ce que...
Pour moi le morceau parfait en ce moment là c'est Celebrate Me de Baxter Dury.
Ok.
Je trouve que c'est génial. D'ailleurs, il commence à rapper un peu, là, Baxter Dury. Et okay. Il a découvert Kendrick Lamar pendant le confinement. Et c'est son fils qui lui fait les... la prod, c'est son fils qui a fait.
Donc... Non, Celebrate Me, Baxter Dury. Allez.
He's a brave man eating hummus in the morning. Breakfast imposter, leisure seeking honey. Sucker living on the Thames with his dream boat, honey. Big man laughing. And I cry, and I cry, and I cry when I see you, Bababoo. And you shiver, shiver, shiver. And I shiver too. I shiver with you. I shiver with you. You were the bravest of them all. And the art of the storm, the artful tower, the pain that shine, and all those mistakes. I'm drowning in these urine lakes.
Tour de la Chipmunk Soul.
Ouais, ça y est, ça revient. Moi, cool, je suis content. Aussi. Ouais, c'est je suis
cool
content.
Cool.
Ouais.
C'est cool, ouais.
Et bah, allez, pour continuer dans les esthétiques variées, j'ai un retard. C'est un tube qui a au moins un an, qui est passé apparemment partout, je crois, en radio et tout, auprès des jeunes.
Ah ouais.
Ça a plu auprès des jeunes. Et j'ai passé à côté. C'est Vakra. Le morceau s'appelle Tiki Taka.
Mais oui.
Et c'est d'une efficacité redoutable. Ça ne devrait pas être ma cam, c'est ma cam, Daz.
Oh putain, incroyable.
Allez,
ça.
On écoute.
Bientôt René la coupe.
Duplicata, possession amour, tiki taka. Je suis sous Jack, elle sous tes matchas. Je me suis attaché, à la base je voulais que ça chata. Je vais sur Windows Shop, elle smoke la weed comme Wiz Khalifa. Tu m'en veux d'avoir des love affaires, mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon G-A-N-G, suis-moi dans ma fast life. T'es relou, mais les autres font pas le poids. J'espère que t'as compris la phase là. T'es ma black widow, ma baby mama. T'es ma locomotive, chouchou, baby toutou. J'me suis mis dans des galères pour you, Charlie, piou piou. Rêve d'un doudou, pas d'un toutou.
Voilà. À vous, tu t'es fait avoir sur le chouchou.
Ouais, non, mais... C'est là que tu te dis le texte, il faut vraiment que la personne l'interprète parce que.
Ah, tu vois, moi par exemple, je chante ça, j'ai l'air d'un
con. Ça marchera pas trop.
Ça marchera pas trop, je pense. Ouais,
écoute, en tout cas, big up à Vakra qui. Moi j'aime beaucoup ce morceau. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un mec assez discret. Et en fait, encore, d'ailleurs, je crois même au moment de la sortie de ce morceau, il avait jamais montré son visage. Beaucoup de gens pensaient que c'était une femme.
Ouais, on dirait.
Mais c'est vrai que ouais, la voix, ouais, tu peux pas la.
On dirait un peu Aya.
Et lui-même, on a joué. Ah oh, bah, il y a un côté de façon pop, ouais. Afro-caribéenne. Ouais. Clairement, c'est ce là.
Ouais.
Mais ouais, ouais, c'est très bon morceau. Non, mais c'est cool.
C'est hein. Efficace, c'est ouais. Efficace. Tiki Taka. Let's go, j'attends que Gérard Larcher en parle aussi. dans les matinales.
Comme pour Aya, force Aya d'ailleurs.
Ouais, force elle, hein, putain. C'est pas facile hein, d'être ouais. Dans un pays de cons quand même.
Ah ouais, tout, c'est la polémique. Ah, enfin, putain. La polémique de rien en fait. Mais...
Bien sûr.
Ah ben, Abaya, Aya, il y a un truc hein. Il y a quelque chose.
C'est vrai que c'est quand même assez affligeant.
Bah.
Bon, en tout cas, on remercie évidemment la team Bouclette.
Évidemment.
Flav, Iris, Sam. Merci Daz, merci à François évidemment
merci
aussi
Salman,
pour le montage.
Merci François, plaisir. Merci Mathieu.
Il était là depuis le début. Merci Thoman bien entendu aussi. Il y a que toi là qui a un mug, vas-y montre.
Mais oui, mais oui.
Zoom zoom mon garçon.
Oui bien sûr Thoman. La question traditionnelle.
Mathieu, est-ce que tu achètes parfois chez Thoman?
J'achète pas nulle part.
Merde.
En fait, moi je suis un homme de la main à la main. Moi je suis trop à l'ancienne.
Très bien. Bah, vous voyez, on ne pipote pas cette séquence. À chaque fois, on demande vraiment aux gens sans l'avoir prévu.
Non mais je bosse avec des gens qui achètent sur Thoman.
Du coup, bah, l'épisode
je délègue.
L'épisode, on ne le sort pas. Ah, bah, oui. Non vraiment, c'est très cool. Merci beaucoup.
Merci,
encore
merci
une fois, Mathieu.
C'est très chouette de discuter avec toi.
Et nous, on se retrouve dans 15 jours, le mercredi. Ça sera forcément bien. Un nouvel invité. Non, à moitié. On sait déjà de prochains épisodes, mais il y en aura peut-être un entre les temps. Là, on est en mode busy, vous avez même pas idée. On a plein d'épisodes qui arrivent, plein de gens très différents.
On parle de mercredi, mais aujourd'hui, c'est mardi, par exemple.
Allez, à dans 15 jours.
Ciao.